Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Émission du 10 mars 1993, rediffusée dimanche 12 juillet 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir.
Eh bien, cette émission commence, on ne peut mieux.
Parce que, comme toujours. Bon,
d'abord, il faut quand même que je fasse un aveu personnel. C'est que, là, vous allez avoir ce soir un festival de tout sautement et de toutes ces sortes de choses, parce que je suis vraiment pris, comme on dit. Hein,
c'est
comme
le ça qu'on dit. Le microbe a frappé.
De plein fouet. Mais ça, c'est de ma faute. Ça m'apprendra à coucher pieds nus. Hein, comme disait mon grand-père, c'est comme ça qu'on attrape du mal. C'est pas vrai, d'ailleurs, mon grand-père disait pas ça. Donc, voilà. Alors, première chose, je vous présente d'avance toutes mes excuses les plus aplaties pour les irritations, les toux, les éternuements que vous allez entendre. Ensuite, pour tout arranger, j'avais invité ce soir Monsieur l'abbé Laguéry qui devait nous raconter ce qui s'est passé à Saint-Germain-l'Auxerrois dimanche. Vous savez ce qui s'est passé?
Non, je ne sais pas, racontez-moi, puisque l'abbé Laguéry apparemment n'est pas là.
Les fidèles de Saint-Nicolas ont tenté d'occuper Saint-Germain-l'Auxerrois et de ramener cette paroisse à la vraie foi. Et il y a eu des affrontements, il y a eu des choses comme ça. Et je pensais que l'abbé Laguéry viendrait nous en parler. Et puis, en arrivant, j'ai trouvé un message. Pardon, première fois.
La télé ne nous aurait pas parlé de ça.
Dans des termes qui méritaient d'être contrebattus par
l'intéressé. Je n'ai rien entendu du tout, moi, là-dessus.
C'est-à-dire que le fait est qu'à Saint-Nicolas, il y a de plus en plus de monde. Il y a trop de monde, maintenant. Et donc, les fidèles ont décidé de demander depuis des années une autre église. Alors, bien sûr, ils ont essayé de prendre une autre église puisqu'on leur donnait pas, et ça n'a pas marché. Cela dit, je leur indique qu'il y a quand même d'autres églises à Paris, mais ils le savent aussi bien que moi. Il y a Wagram, Marly, c'est un peu loin, mais
c'est loin.
Il y a Saint-Eugène où il y a une très belle messe traditionnelle. Faut bien le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous savez pas, vous, Victoria, vous pouvez pas m'aider. Enfin, à Paris, il y a plusieurs messes de la tradition. Mais c'est vrai que ça aurait été bien, Saint-Germain, parce que c'est beau. C'est très très beau, l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois.
Oui, c'est vrai. Mais bon,
voilà.
L'église de Saint-Germain-l'Auxerrois.
Il me semble que c'est de là qu'a été donné le signal de la Saint-Barthélemy, en plus. Enfin, voilà. Alors donc, l'abbé Laguéry m'a fait savoir qu'il ne pourrait pas être là. Il est appelé à d'autres occupations probablement plus importantes que de causer dans le poste.
Non, mais c'était très bien, mais enfin.
Bah oui, c'est cool.
Il doit regretter, d'ailleurs.
Et puis alors, Roger Olindre, qui est notre invité ce soir pour parler, comme je l'avais annoncé, de sa circonscription. Qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là?
C'est Philippe, il dit comme vous, mais il vous a pas écouté, alors.
Mais
Saint-Eugène, venez à Saint-Eugène.
Comme il passe son temps à écrire des messages plutôt qu'à m'écouter, voilà le résultat. Non, mais c'est pas grave, Philippe, je vous en veux pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, Roger est en train de garer sa voiture, il paraît. Alors, on l'attend. Et ensuite, on recevra une équipe qui est très appréciée, enfin une équipe, des gens qui sont très très appréciés au micro de Radio Courtoisie, c'est l'équipe des Jalons.
Ah, mon Dieu!
Qui vient de publier un nouveau pastiche.
Ils ont eu, mais je les ai entendus citer dans les radios.
Incroyable,
officielles,
une publicité officielle.
Avec une publicité laudative, même.
Ouais. Bah, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle le Figagaro.
Oui.
Et c'est pas mal du tout, on va en parler avec eux. Et ensuite, on aura Marc Dem. Et ensuite, on recevra Monsieur Beaujeau. Monsieur Beaujeau est organisateur, entre autres, il est... Alors attendez, je vais vous dire exactement quoi, ça m'évitera de dire des bêtises quand je vais le lire. Bien sûr, dès que j'aurai retrouvé le papier, que j'ai déjà perdu. Mais non, il est le président de la Scola Saint-Martin, et il vient nous parler, entre autres choses, de la Scola Saint-Martin et d'une série de pèlerinages qu'il organise en Terre Sainte et à Rome, en avril et au mois d'août. Voilà. Et puis, on recevra... Monsieur Cazeneuve, membre de l'Institut. Vous voyez, nous aussi, on a quand même des personnalités de très très haut niveau dans cette émission.
C'est très bien.
pour un livre superbe qui s'appelle Les Indiens Unis. Papa Zuni, Z-U-N-I-S, c'est le nom de ces Indiens, ils s'appellent Zuni.
Comme au fond.
Les dieux dansent à Cibola, c'est un livre qui est paru aux éditions du Rocher dans la collection Nuages Rouges. Et c'est une très très belle collection qui fait des choses magnifiques. Alors c'est très inattendu, moi je connaissais Jean Cazeneuve comme un spécialiste de la psychologie. Je le connaissais aussi comme un philosophe et un spécialiste de la télévision et de la radio, puisqu'il a été patron de la télévision. Eh bien, j'ai découvert qu'il avait été aussi explorateur et ethnologue. Alors, on va parler avec lui de ce livre consacré aux Indiens Unis.
Mais vous aviez d'autres livres, là ?
Ah oui, mais j'en parlerai après. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ? Non, on en parlera
non,
après.
J'ai vu qu'il y avait un très joli livre que je vais sûrement m'offrir.
Elle pistonne les copains, parce que j'ai reçu le livre de Maurice Bardèche, Souvenir, qui est paru chez Buchet-Chastel, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc je parle des livres quand je les ai lus, sauf exception. Et d'ailleurs là,
on vous connaît.
Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a une exception notable, c'est un livre d'Alain Vircondelet, qui s'appelle Naissance d'un père, naissance étant écrit au pluriel, et qui parut aux éditions du Rocher. Or, je me suis livré à une manie que j'ai depuis longtemps, qui est d'ouvrir le livre à la première page, puis à la dernière. Et puis du coup, je me suis dit que la première phrase et la dernière étaient tellement belles que j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur du livre. Et c'est absolument... ça a l'air magnifique, comme ça, en lisant, en piochant dedans. Voilà, je lis le dernier paragraphe, pour vous donner envie de lire tous les autres. C'est l'histoire d'un monsieur qui a un enfant. Pas lui, enfin, mais il devient père, quoi. Et alors, le dernier paragraphe, c'est ça. « J'ouvris la porte et fis grincer le parquet en passant le seuil. Je la refermais doucement comme on clôt un livre, l'enfermant ainsi dans son gouffre d'images. Mais Antoine ne dormait pas. Ses yeux noirs luisaient dans l'obscurité. À mi-voix, il parlait lentement, distinctement. Et ce qu'il disait installait l'enchantement. Il disait... Ne t'en va pas, papa, reste avec moi, encore un peu, un tout petit peu, seulement une goutte, écoute les étoiles.
Oh, c'est beau.
C'est magnifique. Alors, c'est très très beau. Et la première phrase, longtemps il ne sait pourquoi il crut qu'il n'aurait jamais d'enfant, qu'il resterait dans ce temps libre d'enfant. Longtemps il crut que c'était aussi cela sa liberté. Longtemps encore il imagina que les livres qu'il avait écrits les remplaceraient, que ceux qu'il écrirait lui donneraient cette affection, ces joies irremplaçables que les parents prétendent éprouver après leurs enfants. Auprès de leurs enfants. Je ne sais pas du tout qui est Alain Vircondelet, mais ça a l'air drôlement beau. C'est paru aux éditions du Rocher. Ça fait pleurer ? Pourquoi ça vous fait pleurer ? Philippe, il pleure. Il pleure. Il verse une larme. Ah, voilà une chose que je dois dire absolument. Il faudra dire au moins 6 fois au cours.
Oui.
C'est que le meeting du 18 mars aura lieu le 17 mars. Vous savez, c'est la fameuse
histoire.
Tant
mieux, parce que c'est justement le jour de Radio Courtoisie. Ça et alors, on ira en sortant, c'est juste à
je
côté. À quel endroit ? Dites-nous
je tout,
au
tout.
Stade de Pierre de Coubertin.
Voilà. Alors, c'est un meeting qui était prévu le 18 mars.
Et savez-vous ce qui s'est passé le
18 mars ? Mais
le 18 mars,
il paraît qu'il y a des gens qui vont courir après un ballon, comme d'habitude. Ah oui, Real de Madrid.
Madrid contre PSG. Alors là, vraiment, c'était une méchante concurrence.
Ouais. Alors donc, le meeting a été avancé. Monsieur, pour une concurrence, c'est tout simplement parce que Coubertin est tout près du Parc des Princes et que matériellement, c'est inaccessible quand il y a un match. Parce que vous avez
pour les places
700 millions d'amateurs de football qui se précipitent pour... je vais essayer de pas être désagréable, parce qu'on sait pas, il y a peut-être des électeurs qui jouent au football.
Il y a sûrement des électeurs qui jouent au football.
Voilà. Donc, je ne dirai rien. Mais n'empêche que le grand meeting avec parisien de Jean-Marie, comment déjà ?
Jean-Marie Le Pen.
Ah, Le Pen, c'est ça. Jean-Marie Le Pen à Paris, au stade Pierre de Coubertin,
c'est
aura
le...
lieu le 17.
Mercredi.
Pardon. Et non pas le 18. C'est très important de le dire. Oui, parce que si vous arrivez le 18, vous allez être étonné de découvrir que le meeting n'a pas lieu. Hein ?
Mm-hmm.
Bien. Alors, maintenant que vous avez le programme de l'émission, je suis obligé de vous dire que si par hasard ça ne vous intéressait pas, vous avez encore une ressource pour occuper votre soirée, c'est d'aller goûter les magrets de canard de Valérie, parce que...
Mais je vous dirai après l'émission.
Non, c'est après l'émission, trop tard. Non, c'est pas trop tard. Elle fait des magrets de canard au cidre qui sont des pures merveilles, je le dis, mais voilà, je suis obligé de le dire. Vous savez, Valérie Delahaye, c'est la nouvelle patronne du Père Tranquille. Alors, Tranquille. Si vous voulez goûter les magrets de canard de Valérie, c'est ça, c'est 30 avenue du Maine. Et vous pouvez téléphoner au 42 22 88 12, 42 22 88 12.
Pour réserver. C'est tout petit.
Et alors, elle a dit qu'elle faisait 10% aux auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, vous entrez et vous dites, j'écoute Radio Courtoisie, et tac, elle vous remet 10% de l'addition. Après, vous pouvez partir sans manger, comme ça, vous avez gagné 20 francs. Non, c'est pas une idée.
Des conseils vraiment tout à fait déplorables.
Bien, dernière chose, j'ai de nombreuses lettres à propos du journal. Le journal que je me prépare
le journal
à faire,
et même que
nous nous préparons.
Et même que j'ai vu un projet de première page.
Oui, voilà, mais il faut pas le dire. Alors,
c'est très joli.
Je ne peux que répéter l'adresse parce que je ne veux pas m'amuser à faire la promotion d'une façon éhontée.
Ben, si, pourquoi pas.
Pour ce journal. Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que Jean Madiran m'a accordé une grande place dans Présent. Ce dont je le remercie vivement, ce qui fait que deux jeunes journalistes de Présent qui s'appellent Jeanne Smith et Caroline Parmentier, jeune et ravissante d'ailleurs, j'ajoute, et brillante, ont publié une interview de moi. Vous savez, on se met à faire comme à la télé maintenant, on s'interviewe
bien,
entre journalistes,
enfin,
etc. Voilà, on comprend.
On commence à savoir.
Et donc, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet dans Présent, donc on peut commander ce numéro de Présent si vraiment
c'est
on veut savoir.
C'est dans quel Présent? C'est le Présent
c'est
d'aujourd'hui
qui est paru lundi à midi. Autrement dit, mardi matin pour ceux qui le reçoivent. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que il s'agira d'un décadaire. Je sais pas si je l'avais dit, ça.
Oui, mais vous l'aviez dit, mais vous pouvez le répéter, voilà. Parce que c'est inhabituel.
Oui. Donc c'est un journal qui paraîtra tous les 10 jours, comme son nom l'indique. Et ça n'a rien à voir avec le calendrier révolutionnaire, parce que ma femme, que j'adore et que j'embrasse, me dit, mais tu fais un décadaire, tu te rends compte, c'est comme le calendrier révolutionnaire, etc. Je vous signale que c'est vrai, le bon Dieu a fait des semaines de 7 jours, mais il a fait des mains de 10 doigts, enfin 2 mains, il a fait 2 mains de 5 doigts. Donc finalement 10, c'est aussi un chiffre qui peut être ramené...
Et de toute façon, comme vous n'allez pas vendre en kiosque, c'est pas très gênant, parce que en kiosque, ce serait un peu ennuyeux, parce qu'on saurait plus très bien quel jour, tandis que là...
Alors, il paraîtra, bon, je sais pas encore, c'est pas bien clair, le mardi et le vendredi, ou le lundi et le jeudi, mardi et le jeudi, je sais pas si c'est Philippe qui décide tout ça, moi je suis exécutant. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est important de le dire, parce que beaucoup d'auditeurs ou de lecteurs m'écrivent en disant, on l'achètera en kiosque. Non, vous pourrez pas, il sera pas vendu en kiosque, pour une raison très très simple, c'est que pour avoir une diffusion... Parce que la presse est faite comme ça aujourd'hui. Comprenez bien, quand on parle de la liberté de la presse, c'est une mauvaise plaisanterie en réalité. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas possible de faire distribuer des journaux à petit tirage. C'est impossible de les faire distribuer par les circuits normaux. Donc pour avoir une vente à peu près correcte d'un journal, il faut le tirer... Je dirais au minimum à 80 000 exemplaires. C'est vraiment le minimum. Et avec 80 000 exemplaires, on peut espérer une vente avec beaucoup de chance de 30 000 exemplaires. Autrement dit, il y a 50 000 exemplaires qui vont directement au vieux papier. Alors c'est difficilement acceptable sur le plan éthique, et même, je dirais, écologique, mais c'est absolument insupportable sur le plan financier. Donc il ne sera pas en vente en kiosque, et pour ça, j'ai pas eu besoin d'aller chercher mon exemple très loin. Je me suis contenté d'imiter servilement Présent et Jean Madiran, qui ont lancé à la grande époque, d'ailleurs qui est toujours en cours, mais qui ont lancé leur journal par abonnement uniquement, et c'est quand il a été bien installé dans ses abonnés, si j'ose dire, qu'ils ont tenté l'aventure du kiosque, mais c'est une aventure très difficile et très périlleuse. Voilà, donc je me permets de rappeler l'adresse à laquelle ce... décadère de civilisation française et de tradition catholique sera domicilié, l'adresse à laquelle on peut écrire, etc. C'est 68 rue David d'Angers.
D'apostrophe.
A-N-G-E-R-S, 75 019 Paris. C'est une adresse postale, je le précise. On ne peut pas recevoir à cette adresse. Il est inutile de s'y présenter. Il n'y a pas de bureau pour recevoir. J'expliquerai pourquoi. J'ai installé mes bureaux dans d'autres locaux dont je ne peux pas donner l'adresse aujourd'hui parce que je suis hébergé par quelqu'un. Nous sommes en train de vivre une aventure tout à fait passionnante et amusante. Voilà. Bon.
Vous pensez faire le premier numéro à quelle date ?
Eh bien, si Dieu veut, il sortira le deuxième mardi d'avril.
Oui.
Donc c'est assez rapide maintenant.
C'est très rapide, c'est après Pâques, voilà. Juste.
C'est juste après Pâques, j'ai attendu. Je n'ai pas voulu sortir pendant la semaine sainte parce que ça me paraissait incongru.
Très bien.
Qu'est-ce que je voulais dire encore ?
Oh, un auditeur ! Oh, un auditeur pense que vous devez sûrement fumer en cachette. C'est pas... Non, il n'a pas... Il ne
non,
fume
non,
plus,
je ne
je
fume
le
pas
jure.
Du tout. Ça fait 4 ans que je n'ai pas fumé. D'ailleurs, je précise que j'ai commencé à tousser le jour où j'ai arrêté de fumer.
Mais non. Il n'y a aucun rapport entre les deux.
Non, mais là, c'est simplement que j'ai attrapé une mauvaise... D'autres questions passionnantes, ma chère Victoria ?
Non, pour le moment, non. Je reçois beaucoup de messages, mais vous n'avez pas encore de questions
passionnantes. Bon, alors, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si c'est Le Pen qui a tué Roseau, quand même. C'est à ça que tout le monde s'intéresse.
Ah, oui.
Alors, si on en croit les journaux, la télévision, la réponse est oui. Il faut bien dire que quand même, en gros, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Le Pen, interrogé sur la disparition de Roseau, a dit « je n'avais pas d'estime pour lui ». Alors tous les journaux serinent cette phrase, en oubliant d'ailleurs de faire remarquer que Le Pen n'a pas dit ça comme ça. Il a dit « c'est un crime abominable qui doit être puni avec une sévérité exemplaire ».
Oui.
Cela dit, je n'avais pas d'estime pour Jacques Roseau. Alors, je vais troubler les enquêteurs, parce que je suis obligé de dire que moi non plus, je connaissais Jacques Roseau, pas bien, mais je le connaissais, et j'avais pas non plus d'estime pour lui. Or, je vois pas pourquoi le fait qu'il ait été assassiné ajouterait de l'estime ajouterait à un personnage une dimension estimable. Il est regrettable que cet homme encore jeune ait disparu dans des circonstances aussi tragiques et violentes. C'est très triste pour sa famille, et je compatis sincèrement à la douleur de sa famille, mais je peux pas dire que du jour au lendemain, je vais me mettre à estimer Jacques Roseau, qui de son vivant ne me paraissait pas du tout estimable, parce qu'il me paraissait avoir trompé les pieds noirs, mésusé de leur... et puis surtout détourné la force politique ou la force... la force humaine et politique que représentaient les pieds noirs. Mais bon, Dieu et son âme... Alors, simplement, je dis ça pour montrer que Le Pen n'est pas forcément coupable. Je peux aussi, moi, être coupable. Mais bon, simplement, j'ai un bon alibi. J'étais pas à Montpellier ce jour-là. Et d'autre part, je sais pas me servir d'un pistolet. Surtout quand c'est un revolver. Voilà. Non, c'est intéressant quand même de montrer que... Enfin, de souligner le fait que...
C'est scandaleux tout de même la façon dont les cousins disent... En gros, c'est le Front National, hein, c'est l'extrême droite.
Oui.
C'est eux à chaque fois.
Oui. Voilà, c'est un nouveau Carpentras. Ça tourne toujours autour des mêmes gags.
C'est dans le même lieu.
Mmh. Oui, c'est proche, oui. Avez-vous des...
On nous pose des questions à propos des églises.
Oui.
Quelqu'un, bien sûr, s'inquiète de savoir quand vous ferez paraître le deuxième tome de notre ami La Nuit de Jéricho et notre ami le lieutenant Poignard.
Qui est toujours
sur son piton. On aimerait bien le voir
en
descendre.
Il est indélogeable. Non, prochainement, je pense d'ici quelques semaines, voilà.
Alors, on nous parle des églises actuellement. Une église traditionnelle, Notre-Dame de Marie Médiatrice, 48 bis boulevard Serrurier dans le 19e, dont personne ne parle et qui est toujours vide. Et pourquoi elle est inaccessible ?
Alors, je suis désolé de dire que c'est absolument... tout ça est pas exact, voilà. Sainte-Marie Médiatrice, d'ailleurs, ne s'appelle plus Sainte-Marie Médiatrice, s'appelle Notre-Dame de Fatima, pour l'excellente raison que cette église a été attribuée...
Oui.
À la communauté portugaise, la communauté catholique portugaise de Paris. Elle est loin d'être vide, elle est pleine à craquer en permanence, et je vais très souvent à la messe quand j'ai pas la possibilité de me déplacer, parce que c'est tout à côté de chez moi, je précise, et surtout parce que, une messe en portugais, c'est presque comme une messe en latin. Comme on comprend pas le sermon, on est tranquille. En plus, ils peuvent dire toutes les bêtises qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Les prêtres sont charmants, mais c'est pas du tout traditionnaliste, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, ne vous laissez pas surprendre. Je pense que la confusion vient du fait qu'à l'époque où Monseigneur du Cobourget voulait avoir une église traditionnaliste
oui,
à Paris.
On
lui avait proposé Sainte Marie Médiatrice et Monseigneur du Cobourget avait répondu c'est un assassinat différé parce que pour comme Sainte Marie est coincée entre le périphérique et les maréchaux. Il y a une traversée du boulevard des boulevards des Maréchaux qui est extrêmement redoutable. Et il avait dit, mes ouailles vont mourir par paquet de 12. Donc il avait dit, c'est un assassinat différé. Et il avait refusé Sainte-Marie médiatrice.
Avez-vous entendu parler de la chapelle du roi boulevard Magenta?
Non, moi, il n'y en a pas.
Connaissez-vous cette chapelle? Est-ce une chapelle traditionnelle?
Je sais pas.
Apparemment, non.
Pas entendu parler. D'autres questions?
On vous demande aussi le nom du chanteur russe de l'indicatif.
Écoutez, je l'ai eu su, comme on disait dans le midi, mais il m'est sorti de l'esprit, mais on va certainement nous le téléphoner. Là, on voudrait savoir le nom du chanteur russe de l'indicatif.
Et puis alors, on a une question ou deux à propos du fameux mode de scrutin. Parce qu'on se demande si vous pourriez expliquer pourquoi, ayant autant de voix, on risque d'avoir aussi peu de sièges.
Ben c'est élémentaire.
Oui.
Il existait en 86 un mode de scrutin qui était le mode proportionnel, c'est-à-dire que les députés, le nombre de députés de chaque mouvement ou parti était proportionnel au nombre de voix recueillies par les listes, par la liste présentée par chacun de ces mouvements ou partis.
Oui.
Ok.
Oui, oui, oui,
bon, c'était
facile,
donc très clair.
Oui.
C'est comme ça qu'il s'est retrouvé 36 députés du Front National à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, Monsieur Pasqua, le célèbre charcutier grossiste, qui à l'époque avait tenu sa boutique rue des Saussets, a trouvé qu'il fallait absolument mettre un terme à ça, et il a fait un charcutage, d'abord un charcutage de circonscription, et ensuite une loi qui a fait disparaître la proportionnelle et réinstauré le scrutin de circonscription. C'est-à-dire le scrutin de circonscription, ce sont les candidats qui obtiennent plus d'un certain pourcentage de voix, je sais d'ailleurs plus lequel exactement, qui peuvent se présenter au deuxième tour, se représenter ou se maintenir au deuxième tour. Et étant donné que le Front National va avoir à affronter une coalition de la gauche et de la droite, qui est annoncé officiellement. Ils appellent ça le pacte républicain, en plus.
Ah oui.
Parce qu'il paraît que le Front National n'est pas un parti républicain. Je veux bien savoir ce que c'est pas un parti républicain. Alors donc, partout où un candidat du Front National va se présenter, eh bien, il a toutes les chances d'être battu, puisque, normalement, le candidat de gauche ou de la fausse droite le moins bien placé devrait s'effacer au profit de son concurrent complice de la fausse droite ou de la gauche.
Oui, oui, oui.
Pour obtenir que la certitude que le Front National, que le candidat du Front National sera battu. Il faut dire que le scrutin de circonscription, c'est un scrutin qui nécessite la mise en place très longue d'une action de terrain. Or, c'est un scrutin qui sert les notables, qui sert les gens installés dans leur bled. Or, le Front National n'a jamais été un parti de notable.
Et puis en plus, là, ils font une alliance, le RPR et l'UDF, on vous connaît leurs divergences, mais ils y vont unis comme au front, uniquement pour la période électorale. Donc, comme ils sont plus importants, ils remportent forcément davantage.
Voilà, je ne sais pas si on a été assez clair. Roger, bonsoir.
Bonsoir.
Roger.
On nous demandait d'expliquer la question des...
Pourquoi avec 15% des voix, on risquait de n'avoir qu'un seul siège?
Mais parce que...
C'est les magouilles, voilà.
Le découpage a été fait pour ça, et les socialistes se désisteront au profit des communistes, alors que le RPR et l'UDF feront voter communistes contre nous, aux endroits où socialistes, aux endroits où...
Voilà.
Où ils le pourront.
Et j'ai encore beaucoup de questions.
Je compte d'ailleurs, si c'est possible, tout à l'heure parler de tout ça en ce qui concerne la Seine-Saint-Denis et donner quelques exemples.
Voilà, mais c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir.
Il y a plusieurs personnes qui demandent qui sont ces personnes de l'Alliance populaire qui reprennent tous nos thèmes.
Oh, écoutez, on
va pas. C'est pas grand-chose, mais c'est très, très monté en épingle.
Oui, d'accord. Bon, ben, c'est pas la peine d'en parler. Il s'agit d'une opération qui a été tentée 6000 fois. Ce sont des opérations de diversion auxquelles il est parfaitement de diversion, de division.
Un ou deux pour cent.
Ça n'a aucun intérêt. Ce sont ce qu'on appelle des candidatures fantoches. Enfin, on les connaît, ces garçons. Ils sont pas méchants, d'ailleurs, mais. Voilà.
Puis on leur paye leur campagne, comme ça.
Ah ça, je sais pas. J'ai absolument aucune preuve de ça. Mais ce que je sais, c'est que ce sont de gentils garçons. Mais je comprends pas leur attitude. Je vois pas du tout quel intérêt ils ont à présenter des candidats qui vont faire 1,2% ou 0,8% des voix et qui seront prises évidemment sur l'électorat naturel du Front National. D'autres questions ?
Non, pour le moment, non.
D'autres réflexions ? Non, rien. Bon, eh bien, alors, on va maintenant donner la parole à Roger Hollande, qui nous a rejoint après avoir longuement cherché, je pense, un endroit pour se garer.
Oui, mais c'était à 6h30.
Ah ben, c'est très bien.
Voilà, c'est le chanteur qui arrive.
Ah ben voilà, ben, j'étais sûr qu'il écoutait, c'est pour ça que je lançais cet appel. Alors, la magnifique voix des chœurs montjoie, non, pas la seule, mais celle qu'on remarque parce qu'il cause l'étranger.
En solo ?
C'est Alexis Siolkovitch, voilà, qui est un auditeur de Radio Courtoisie et qui est un homme de grand talent que je salue et à qui je rappelle qu'il me doit une traduction. Mais enfin, c'est pas grave. Pardon, Roger. Donc ce soir, tu es venu non pas pour parler.
Je suis venu pour parler un peu politique,
voilà.
Plus exactement politique. En Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis, ça n'est quand même pas rien, puisqu'il y a 1 350 000 habitants. Et sur 1 350 000 habitants, il y a 30% d'immigrés, le plus fort taux de délinquance de France, 130 nationalités, et ces chiffres de 130 nationalités sont donnés par la Gazette du Palais.
Combien 130 nationalités.
130 nationalités.
C'est incroyable.
La Gazette du Palais, qui est le journal du syndicat de la magistrature de Bobigny, qui le dit. Enfin, qui l'imprime. Le taux de chômage est réellement de plus de 18%, sans compter le travail au noir et les emplois précaires. Alors, ça fait quand même longtemps que nous nous battons dans ce secteur. Et il faut bien rappeler que le Front National est la première force politique de la Seine-Saint-Denis avec 23,66% des voix, ce qui n'est pas rien. Bon. Et j'ai l'exemple dans mon coin et dans la municipalité où je suis élu, conseiller municipal. Nous aurions très bien pu enlever la mairie depuis longtemps au maire communiste, mais c'est le refus systématique d'entendre du RPR et de l'UDF avec le Front National qui fait que nous n'avons pas pris la mairie de Sevran, mais ailleurs aussi le maintien des communistes dans les mairies, au conseil général, où ils ont la majorité, 21 sièges sur 40.
Alors ça, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un reproche constant, par exemple dans le Figaro Magazine, on lit ça sans arrêt, sous la plume de divers commentateurs, le Front National sert les intérêts du Parti Socialiste en empêchant la droite d'accéder au pouvoir par sa présence, ce qui est un reproche assez paradoxal en réalité. On n'aurait pas le droit d'exister. En fait, on est pour le génocide des nationalistes. La vérité est quand même légèrement différente.
La vérité, c'est que dans tous ces secteurs, nous sommes devant eux et que voudraient que nous nous retirions, alors que la logique veut que ce soit les...
C'est eux qui appellent ça la discipline républicaine, normalement,
oui,
la discipline
oui, la
républicaine...
la discipline républicaine, c'est contre nous. L'entente républicaine, c'est contre nous. A priori, pour eux, nous ne sommes pas des républicains. Bon, ben, l'exemple le plus frappant, c'est que moi, j'aurais pu battre le maire de Sevran, qui est conseiller général, hein, et si j'avais battu le maire de Sevran, eh bien, comme les communistes au conseil... général ont 21 sièges sur 40. Bon, ben il n'avait plus la majorité absolue. Et puis il est bien sûr et certain que on pouvait prendre d'autres mairies, puisque à l'heure actuelle les communistes ont quand même un certain nombre de mairies. Je crois que je l'avais noté. Ils détiennent encore 19 villes sur 40 en Seine-Saint-Denis.
Mais là, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de cette affaire. Comment ça s'est passé au moment des élections ? Tu as eu des contacts avec les gens l'UPF ou l'UDF ou RPR, je sais pas comment
je connais les gens de l'UDF et du RPR, les candidats normaux, puisqu'ils se regroupent à chaque fois, ils n'ont qu'un candidat, un candidat unique. Et la dernière fois, j'avais demandé à Madame Bravet, qui représentait ce regroupement, hein, de ne pas se présenter.
Elle avait combien, quel pourcentage?
Elle avait 4 points de moins que moi, 4 points et demi de moins que moi, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, ce qui fait que l'unité au deuxième tour, on pouvait largement écraser
donc,
les communistes.
Pour être bien précis, si lors de la dernière consultation électorale, la coalition RPR-UDF avait joué la discipline républicaine, c'est-à-dire s'était effacé devant le candidat antisocialiste, anticommuniste, antimarxiste le mieux placé, qui était toi, tu étais à peu près assuré d'être élu, par la conjonction des voix de toute l'opposition antimarxiste. À ce moment-là, tu faisais perdre la ville de Sevran
aux communistes,
tu faisais perdre le conseil général
de Seine-Saint-Denis. Il est sûr et la dynamique de l'unité pouvait jouer et peut toujours jouer contre le maire actuel.
Or, il faut savoir quand même une chose, on l'a écrit des centaines de milliers de fois, mais apparemment c'est pas encore rentré dans le crâne de beaucoup de gens, que le pouvoir municipal des communistes leur a permis a permis au Parti communiste d'installer en France une formidable mafia, une mafia de voleurs, de prébendiers, de faux facturiers, qui est parfaitement comparable à ce que font certains socialistes, qui pompent les finances municipales à travers des sociétés écrans, à travers des opérations de fausses factures. Il faut savoir, par exemple, que, ça c'est Montaldo qui l'avait révélé dans la France communiste, une des sources de financement, c'est toutes les fournitures scolaires qui, dans toutes les municipalités communistes,
un tas de sociétés pour tout,
passent obligatoirement par des sociétés d'achat, des centrales d'achat communistes.
Avec, bien souvent, il faut le reconnaître, parce que c'est notre honneur à nous de reconnaître, avec des gestionnaires qui sont des fois des gars corrects. Il y a le gestionnaire d'un côté et les gens du parti de l'autre, quoi. Tout ça, ils n'ont pas fait que des bêtises. Bon, ils ont tué ces régions en construisant tout et n'importe comment, bien souvent, pour avoir des électeurs. Puisque quand tu as des appartements à donner au prix du HLM, c'est quand même facile d'avoir du monde. Bon, il faut bien savoir aussi que quand nous partons aux élections, ils ont déjà une bonne avance avec les 800, 1000 ou 1200 employés municipaux, leurs femmes, les cousins, les tontons, les grands-pères qui ont été logés. Bon, ils savent manier le pognon, ils cherchent du pognon, ils en trouvent, mais ils savent comment s'en servir.
Et c'est maintenant devenu pratiquement la seule source, puisque l'Union soviétique ayant disparu comme...
Oui, c'est sûr et certain que depuis qu'ils n'ont plus l'Union soviétique, ils rament un peu plus, c'est sûr. Ça, c'est,
mais,
on le voit tous les jours. Mais ce qui est inexplicable, la chose dont tu parlais là, est inexplicable. Mais ce qui est inexplicable aussi, c'est par exemple, je vois aujourd'hui là, le Parisien libéré. Bon, je suis passé voir ce matin les rédacteurs du Parisien Libéré. Et il y a un article sur Le Pen, où quand tu prends toutes les déclarations de Le Pen, elles sont bonnes, hein. Mais le titre en première page, La vérité version Le Pen, le président du Front National s'est confié sans prendre de gants aux Parisiens, visite guidée dans l'univers lepéniste. Eh bien, ce que dit Le Pen et qui est présenté par ces gens-là, qui se prétendent journalistes, qui ont la carte de presse, ce qui est présenté comme quelque chose d'absolument horrible, page 3, hein, on nous annonce, il y a l'interview d'un conducteur de bus qui en a marre, qui ne peut plus vivre et qui dit que tous les jours son autobus est pris d'assaut, que les gars lui crachent dessus, que il le nargue, qu'il s'installe au fond du bus et avec de la musique et tout, enfin que ça n'est plus possible. Et une page ou deux plus loin, on apprend là que des joueurs de basket de ce rang ont été agressés. Et quand tu lis le papier, pourquoi ont-ils été agressés? Ben, ils ont été agressés parce que un s'était fait voler sa moto, hein, après le match, et ou pendant le match, et puis ils ont été à quelques-uns pour essayer de retrouver la moto. Et là, ils ont vu la moto, ils ont vu le voleur, mais, et c'est noté là-dedans, il y a 30 individus de race noire, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien de ce matin, qui les ont attaqués. Il a fallu 13 véhicules de police pour venir et pour mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, dans le même journal, qui de page en page relate ce genre de choses quand il s'agit de la Seine-Saint-Denis, on arrive à nous insulter.
Ouais.
C'est-à-dire, ils disent, eux, pour vendre leurs papiers, la même chose que nous, et ils rapportent des faits que nous dénonçons depuis des années, mais avec toujours, c'est contre nous. Nous sonnons le tocsin, c'est donc nous qui avons tort.
Écoute, j'étais samedi soir dernier dans la banlieue d'Orléans pour soutenir le candidat du Front National local qui s'appelle Michel Rotet. Donc j'étais en train de faire mon discours. On a été attaqué, le meeting a été attaqué, au fusil, s'il vous plaît, par une bande de Turcs qui ont tiré sur nous. Bon, le lendemain, alors dans la presse, absolument rien. Rien dans la presse locale, rien du tout. Il a fallu que Michel Rotet fasse une protestation auprès de FR3 local et auprès de la presse locale pour que finalement il se décide à publier quelque chose. Et cette chose est devenue dans la presse parisienne par l'intermédiaire, je pense, de l'AFP, l'information suivante, échange de coups de feu entre des militants du Front National et des Turcs. Et c'est absolument faux, j'étais là, je l'ai vu de mes yeux.
Mais c'est ahurissant.
On a été attaqué par une voiture remplie de Turcs qui a tiré un coup de feu.
C'est ahurissant que des Français trouvent normal que des étrangers viennent attaquer des Français dans leur pays. Que ce que nous disons plaise ou ne plaise pas à ces étrangers, ils ne sont pas chez eux. Et nous sommes chez nous. Et nous sommes en période électorale, nous avons le droit, étant un parti légal, de dire ce que nous avons envie de dire et de défendre notre programme. Eh bien, c'est normal qu'on soit attaqué par des étrangers. Cette nuit-là, dans le secteur à côté du mien, une équipe de colleurs qui a été attaquée par une bande de maghrébins sortant des immeubles, des pavés, des bouteilles sur les véhicules et tout. Il faut quand même rappeler que les véhicules sont ceux des militants, hein, et ce sont des véhicules qu'ils achètent avec de l'argent. Ils roulent avec leur propre essence, hein, ce sont pas des militants qui sont payés pour faire ça. Ils le font par idéologie.
Un auditeur nous fait remarquer une chose qui est vraie, là, je l'ai sous les yeux. La photo de une de Jean-Marie Le Pen, publiée par Le Parisien, est une photo retouchée grossièrement. Tu as vu comme...
C'est pour ça que je suis allé voir le rédacteur en chef, rédacteur en chef de... Mais je n'ai vu que le rédacteur en chef responsable des pages de Seine-Saint-Denis, et je lui ai demandé si vraiment il estimait que dans un journal d'information, une telle photo, c'était du travail de journaliste.
Ouais.
Et si vraiment il pensait que le fait d'avoir la carte de journaliste, ça lui permettait, et ça leur permettait, ses collègues de s'engager politiquement.
Je vais te dire une chose, c'est mon opinion de journaliste. Hein. Ces types-là, on sait qui c'est, on sait au service de qui ils sont, donc c'est pas étonnant qu'ils fassent ce boulot. Moi je dis que ceux qui sont à blâmer dans une affaire comme ça, c'est ceux qui persistent à acheter des journaux comme ça. Parce que quand tous les matins, vous achetez un journal dans lequel systématiquement vous vous faites cracher la figure, insulter, traîner dans la boue, calomnier, diffamer, et ben vous êtes complice de la diffamation. Moi je dis qu'il n'y a plus un militant, plus un sympathisant du Front National qui devrait acheter les journaux qui, à longueur de journée, à longueur d'année, nous vomissent des sanies et des insultes au visage.
Et puis je crois aussi qu'il faut que les gens de chez nous prennent l'habitude d'écrire, pas des lettres d'insultes, mais des lettres correctes, disant qu'ils n'acceptent plus d'être traînés dans la boue comme cela est fait. Ce matin, j'ai téléphoné, je dis à ce rédacteur en chef responsable des pages de la Seine-Saint-Denis, hein, je lui ai dit, si vous me raccrochez au nez, je descends chez vous. Il m'a raccroché au nez, je suis descendu chez lui, j'ai été le voir, et je me suis présenté, et voilà. Je suis l'homme à qui vous avez raccroché au nez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Je vous amène mon pédigré. Voilà, vous le lirez tranquillement cet après-midi pour voir si je fais partie de ces gens à qui on doit cracher à la gueule et raccrocher au téléphone.
Oui, mais ça, c'est parce que toi, tu considères que le fait d'être un ancien combattant, un héros, parce qu'il faut dire le mot, un des plus jeunes résistants de l'histoire, d'être décoré au point que tu peux même pas porter toutes tes médailles, tu considères que ça te mérite le respect.
Oui.
Mais pour ces gens-là, non. Ça fait
oui,
de toi...
Oui, mais je préférais quand même aller le voir carrément, gentiment, sans être grossier, je pense qu'il faut quand même qu'ils sachent qui nous sommes exactement. Bon, ils continueront peut-être à nous insulter, mais ils sauront à ce moment-là qu'ils se conduisent comme des malfaisants, hein, et des gens qui ne font pas leur travail de journaliste.
Alors,
parce qu'ils ne manquent pas de journaux de partis, de journaux de mouvements où des journalistes en gagnant trois fois rien peuvent travailler et défendre leurs idées, hein, alors que ça, ce sont des journaux d'information, et les gens qui écrivent dedans les trois quarts du temps maintenant sont des militants communistes, et bien toujours d'ailleurs de gauche ou d'extrême gauche, parce que le drame de ce pays après 12 ans de socialisme, bon, le socialisme c'est de l'eau de boudin, ça part de tous côtés, mais en 12 ans ils ont permis à tous les gauchards et toute la chienlit de se mettre en place absolument partout.
Beaucoup d'auditeurs nous font remarquer d'ailleurs que l'affichage n'est pas fait. Alors tu viens de nous dire pourquoi, effectivement, si les afficheurs sont attaqués, ils peuvent pas faire leur boulot. Alors on nous dit au Blanc-Ménil, à Drancy, dans plusieurs communes de la région parisienne, on ne voit pas d'affiches du Front National.
Elles sont affichées, mais dès que c'est affiché, c'est recouvert. Enfin, il y en a quand même pas mal. Et puis on a pris la tactique du boitage. On croit beaucoup au tract bien fait, au boitage. Et on en fait énormément. Et en plus, nous n'avons pas voulu non plus, comme il y a quelques années, mettre une profusion d'affiches un peu partout, parce qu'on pense que les gens ça commence à leur déplaire énormément. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si nous avions des responsabilités politiques un jour, peu ou beaucoup, hein, je pense qu'il faudra faire respecter la loi des panneaux officiels, parce que les panneaux officiels ne devraient être touchés par personne. Nous ne touchons pas aux panneaux officiels, hein, et le panneau officiel devrait être sacré. D'ailleurs, il y a une loi qui n'est jamais appliquée, qui prévoit 8000 francs d'amende pour les gens qui sont pris en train de déchirer les affiches sur les panneaux officiels. Enfin, il est bien comme certain aussi, et il faut le savoir, c'est que les militants du Front National sont taillables et corvéables à merci, hein, ils payent leurs affiches, ils payent l'essence, ils sortent la nuit, ils se défoncent, hein, et que, à la différence de ce qui se passait avant, c'est toujours les mêmes, absolument, qui font tout.
Et
les gens qui ne voient pas d'affiches dans leur quartier, rien ne les empêche de passer au local du Front National de leur secteur, de demander des affiches et de sortir les coller la nuit prochaine.
Après les avoir payés,
1,50 francs ou 2 francs l'affiche. Nous faisons beaucoup, beaucoup, beaucoup de boitage, et nous essayons justement de faire des tracts qui tiennent la route. Et le tract national qui a été fait cette fois-ci, avec les propositions du Front, la photo de Le Pen et parfois la photo du candidat local, passe très bien. Il n'y a rien de superflu, et c'est bien expliqué. Et pour savoir quand même le danger que courent les militants du Front National en Seine-Saint-Denis, dans l'indifférence générale d'ailleurs, hein, eh bien c'est que les vols à la tire, les viols, le cambriolage et les agressions ont augmenté de 12%. Le trafic de drogue est installé en grand, et puisqu'il y a eu dernièrement 2 tonnes de résine de cannabis saisies à la Courneuve et 250 kilos de cocaïne saisies à Saint-Denis, dans les cités à haut risque.
D'ailleurs, là, sur ce sujet-là, on pourrait s'interroger, parce qu'on a vu dans la presse, au moment de cette affaire, plusieurs articles qui expliquaient que c'était 2 familles qui travaillaient, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, il y avait ceux qui comptaient le fric, ceux qui l'encaissaient, ceux qui faisaient la vente, la distribution de la drogue, etc. Mais on nous disait dans tous ces articles qu'on voyait des gosses de 18 ans qui arrivaient dans les cités à bord de flamboyantes voitures à 400 000 francs ou à 500 000 francs. Alors, moi, je sais pas, je viens de remplir...
Qui touchait le RMI.
Alors, ils vont chercher leur RMI à bord de BMW à 300 000 francs ou à 400 000 francs. Moi, je veux bien, ça, personnellement, ça me dérange pas. S'ils ont les moyens de faire des économies pour se payer des belles voitures, tant mieux pour eux. Mais je voudrais quand même faire remarquer une petite chose, c'est que quand j'ai rempli ma déclaration d'impôt l'autre jour, quand tu fais ta déclaration d'impôt, il y a un contrôle des signes extérieurs de richesse. Et si on a une voiture qui vaut 400 000 francs alors qu'on est au RMI à 4 000 francs par mois...
Mais pour qu'il y ait un contrôle sur les signes extérieurs de richesse, il faut habiter dans un quartier où la loi rentre. Bon, dans ces quartiers à haut risque, la loi ne rentre pas, la police ne rentre pas, l'impôt ne rentre pas. Ce sont de véritables bastions étrangers. Et bien souvent, il y a eu l'exemple à Sevran même, voici quelques mois, de deux gars qui s'étaient fait voler leur moto, un peu comme les jeunes basketteurs là. Bon, c'était deux gars qui étaient en train de faire l'essence dans une station-service. Ils venaient d'acheter les motos. Hein. Un qui avait acheté un gros cube et un autre un trial. Hein. C'était des motos neuves. Bon, il y a une bande de loubards maghrébins qui sont arrivés. Hein. Ils leur ont tapé dessus, ils les ont défoncés. Ils sont partis avec les motos. Bon, les deux jeunes, hein, qui sont d'ailleurs venus s'inscrire au Front National après ça, hein, ont repéré dans quelle cité étaient rentrés les deux voleurs et ils ont dit aux flics, c'est là. Mais les flics attendent toujours l'ordre de la préfecture de rentrer. Les motos n'ont jamais été récupérées. Quant aux deux jeunes garçons qui sont venus s'inscrire au Front National, s'il faut que les Français se fassent voler chacun une moto pour venir s'inscrire au Front National, je pense que la situation n'est pas prête de se clarifier. Parce qu'on peut
ça va aller assez vite au rythme.
Mais on peut quand même se poser la question, comment, par quelle aberration, par quelle monstrueuse propagande les Français en sont-ils arrivés à croire qu'ils ont chez eux le droit de se taire ? Moi, quand je vois des gens qui se taisent, hein, ou qui regardent derrière eux, quand on est en train de boire un café, on parle de l'honneur, de la patrie, du service de la France et tout, et les gens se retournent derrière eux. Mais je dis, mais enfin, la guerre est finie, les Boches sont partis, qu'est-ce que vous avez à regarder derrière vous? Vous regardez si ces gens qui sont apparemment des étrangers ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Est-ce que vous avez dit du mal d'eux? Non, vous n'avez pas dit du mal d'eux. Vous parlez de votre pays, c'est votre pays, et eux, ils ont à vous attaquer ou à ne pas être contents parce que vous dites que la France veut rester française. Et on vient même de dire à l'instant qu'on n'avait rien contre les immigrés, mais qu'on avait tout contre le problème de l'immigration sauvage. Eh bien, c'est comme ça. Moi, quand sur un marché à Sevran ou à Villepinte ou à Tremblay, je donne un tract, hein, et que les Français qui sont là bien souvent, des couples âgés, prennent le tract en douce, le mettent dans la poche en le cachant et me disent « Allez-y, allez-y, monsieur Lindre, allez-y, continuez ». Eh bien, ces gens se taisent. Et quand j'arrive dans les rues, qu'est-ce que je vois 2-3 fois par semaine? Des camions qui sont là et les gens s'en vont. Les Dupont et les Durand s'en vont. Ils déménagent. Ils déménagent pour aller où? À un endroit où il y a moins d'immigrés? En ne pensant pas qu'ils seront rejoints demain. Et ils iront où après? C'est vrai que Monsieur Giscard d'Estaing a dit il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 2 ans, je pense, mais tout compte fait, c'est moins grave qu'il n'y ait pas de travail pour les jeunes Français parce qu'ils auront toujours possibilité d'aller s'installer au Canada, qui est un pays de langue française. Et ce type a été président de la République et il va se représenter encore comme président de la République. Non, moi je crois que la situation n'est pas dramatique, mais elle est très grave et que les gens mettent les pouces et se taisent. Et que l'occupation étrangère est en train de se mettre en place. Parce que les socialistes ont pris une situation il y a 12 ans qui n'était pas très brillante. Le problème de l'immigration maghrébine était loin d'être réglé. Eux l'ont envenimé, ont envenimé les choses, et ils ont créé de toutes pièces l'immigration africaine qui est 100 fois pire aujourd'hui que l'immigration maghrébine. Parce que les maghrébins, il y a parmi eux des vieux qui ont opté pour la France, ou bien même des vieux qui avaient servi la France et qui en ont marre de tout ça parce qu'ils voient qu'en définitive, ça va leur retomber sur la tête. Tandis que les autres, comme ils sont arrivés dans une nation socialiste depuis des années et des années et des années, où rien n'était plus respecté et où la France ne se voulait plus ni respectée ni respectable de la vie même des gens qui nous dirigeaient, puisqu'ils étaient ici chez eux, puisqu'ils avaient des droits ici, on a cessé de le leur dire, et que les gens qui, en tant que Français, citoyens français, ayant bâti ce pays, hein, chaque fois que l'un d'eux dit quelque chose, c'est du racisme et de la xénophobie. On payera longtemps, et ce pays va payer longtemps, hein, les aventures ubuesques et dramatiques, hein, de Monsieur Harlem Désir et compagnie. Et ça continue, puisqu'on vient d'apprendre que le Conseil d'État autorise les successeurs de Monsieur Harlem Désir à rentrer dans les lycées, pour expliquer en définitive que les seuls salauds dans ce pays sont les Français.
Bah, tu sais, c'est pas très, très étonnant quand on voit ce qui se passe. En ce moment même, sur France Inter, l'après-midi, il y a une série d'émissions sur la prétendue ratonnade du 17 octobre 61. Et on nous explique, moi j'ai entendu ça cet après-midi, que le 17 octobre 61, la police a enlevé des centaines et des centaines de Nord-Africains, les a assassinés, noyés, torturés, transportés dans, aux Veldives,
Ils sont bien enterrés quelque part.
Alors,
il y a qu'à chercher des cadavres. Hein.
Ça, c'est la première chose, mais je voudrais quand même ajouter un point qui me paraît important. C'est que si ça s'est passé, ça ne s'est d'ailleurs pas passé comme ça, mais si ça s'est passé, c'est un acte de guerre, puisqu'il faut rappeler que ces Nord-Africains ces Algériens qui étaient ameutés dans Paris, malgré une interdiction formelle de la manifestation, s'étaient ameutés à l'appel du FLN, qui était une organisation en guerre contre la France. On était donc en présence d'un acte de guerre déclaré contre la France sur le territoire français. Et par conséquent, il était normal de tuer les gens qui faisaient la guerre à la France.
Je ne vois pas pourquoi on nous reproche. C'était la guerre du FLN transposée sur le continent métropolitain, et on oublie que la police avait fait venir d'Algérie des supplétifs harkis qui étaient dans la police parisienne, que les commissariats de beaucoup de quartiers chauds étaient blindés, il y avait des murets en sacs de sable devant et derrière des flics aux aguets, pistolets mitrailleurs aux côtés. Mais de toute façon, ces gens se croient intelligents en déformant la réalité des choses ou en racontant la guerre sans jamais mettre dans le contexte. Ils oublient totalement le contexte. L'autre soir, je regardais éberlué à la télévision une émission dans la série Bas les masques, hein, où la présentatrice qui fait ce genre d'émission est une bonne professionnelle. Bon, qu'avait-elle en face d'elle, cette bonne professionnelle? Là aussi, il n'y a que nous, hein. Des gens qui sont pas d'accord avec nous, quand ils sont bons, on dit qu'ils sont bons, on veut pas. Bon, cette bonne professionnelle était totalement dans l'erreur. Et elle avait en face d'elle quoi? Elle avait une jeune Algérienne qui se plaignait de ne pas pouvoir rester en France. Bon, et on voyait cette Algérienne, on la suivait un peu partout, elle faisait des démarches pour rester en France. Mais jamais personne ne lui a dit que son pays avait voulu l'indépendance, hein, que des centaines de milliers d'Algériens avaient été tués et des dizaines de milliers de Français, et ensuite 150 000 harkis assassinés pour que l'Algérie ait son indépendance. Alors là, il y avait tout un tas de gens qui témoignaient, mais avec un culot absolument, absolument innommable. Alors il y avait un couple là, hein, et, bon, tout ça, manteau de fourrure, bien habillé et tout. Bon, c'était des gens mais je peux pas dire d'origine algérienne, puisqu'apparemment ils étaient algériens, donc ils peuvent pas être d'origine algérienne. Ça voudrait dire des gens venus de là-bas, et qui se seraient devenus français. Ici, apparemment, que disaient ces femmes? Bon, elles disaient dans un français très châtié qu'elles avaient fait leur devoir. Et l'autre, la présentatrice, nous avons lutté contre la présence française en Algérie. Donc nous sommes à l'aise. Ah bon? Et où êtes-vous depuis l'indépendance? Mais depuis l'indépendance, nous sommes installés en France. Et personne ne leur a dit, mais enfin, vous avez fait tuer des Français, vous les avez chassés de là-bas, et vous estimez avoir fait votre devoir en venant vous installer ici. Vous n'avez pas l'honnêteté, ayant fait combattre la France ou ayant vous-même combattu la France, hein, d'être resté là-bas. Et ça me rappelle cette chose aussi scandaleuse que j'ai citée dans des dizaines de dîners débats. C'était un soir, un petit morveux de présentateurs, comme ils nous en sortent de temps en temps. Alors, il y en a quelques-uns qui réussissent à s'agripper et à rester. Mais de toute façon, pour rester, ils en remettent toujours dans le même sens. Et il y avait une gamine, là, une fille de Harki, qui devait avoir 15 ou 16 ans. Et le présentateur lui disait, alors ça ne te fait rien, hein, que ton père ait été un collaborateur, hein, ton père a trahi sa nation algérienne. Ah oui, elle ne savait pas trop quoi dire, la fille. Et devant tous les racontards des autres, elle dit, ah mais si, je me souviens. Il m'a dit qu'un jour, il avait trahi la France. Ah, tu vois, disait l'autre. Mais comment peut-on prétendre recevoir des étrangers dans ce pays et faire en sorte qu'ils s'intègrent à notre nation? Comment, en crachant toujours sur ceux qui se sont battus pour nos couleurs et en donnant l'absolution et en mettant des auréoles, hein, de gloire sur la tête de ceux qui nous tiraient dessus et qui ont tué nos copains, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour l'Indochine, hein, les gens qui ont trahi la France, qui ont tiré contre nous, ont plus de droits aujourd'hui ici que les gens qui ont servi dans l'armée française. On en a l'exemple tous les jours. Et moi, si je me suis battu pour que les Asiatiques qui avaient servi la France, hein, soient accueillis convenablement ici, surtout ceux qui avaient servi dans notre armée, on s'aperçoit aujourd'hui que des Chinois arrivant par Hong Kong de Chine communiste et qui arrivent par dizaines de milliers, voire même par centaines de milliers maintenant chaque année, hein, sont aussi français qu'eux en moins de temps avec des papiers et avec tout. Et personne ne voit cette invasion, personne ne pense que tout cela va mal tourner. Et on continue à lui dire, mais enfin, vous attaquez les étrangers. Non, on n'attaque pas les étrangers, on défend notre pays, ça n'est pas la même chose. Alors l'autre jour, un copain me disait, mon frère Roger, tu es comme nous, tu as été marqué par l'Indochine. Oui, j'ai été marqué par l'Indochine. Oui, je me suis battu avec l'armée française là-bas pour que le Vietnam, le Cambodge et le Laos ne connaissent pas le goulag communiste. J'ai même fait mieux, parce qu'alors que beaucoup avaient décroché, j'ai créé le Front uni de soutien au Sud-Vietnam. Et j'ai créé l'association France-Vietnam du Sud. Et je me suis battu avec quelques amis pendant des années dans les rues de Paris, en tenant l'affichage contre les maoïstes, contre les gens qui gueulaient dans les rues au Ho Chi Minh. Donc je me suis battu longtemps pour ces gens-là, presque 20 ans, 10 ans sur le terrain et 10 ans à Paris. Même là, je n'admets pas que les gens qui arrivent aujourd'hui fassent des Sinatovs ou fassent un tas de choses comme cela. Je suis pour qu'ils soient dilués dans la population, bien que je respecte beaucoup les Asiatiques. Je sais qu'ils sont travailleurs, mais on sait qu'aujourd'hui, avec des mafias qui s'installent, ils sont plus ou moins pris en main, qu'ils le veuillent ou non. Eh bien, moi qui aime l'Indochine, qui aime ses habitants, je suis pour que cela soit respecté, ceux qui ont choisi la nationalité française, mais je suis pour qu'on soit draconien vis-à-vis de ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont des clandestins, et tout le monde sait par quelle filière ils passent. Ça leur coûte environ 500 000 de centimes à chacun pour arriver de Hong Kong et être installé à Paris avec des faux papiers.
Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant pour quelques minutes à ta circonscription. Comment elle se présente? Qu'est-ce que tu espères?
Ben, j'espère être présent au deuxième tour. Et il est bien sûr et certain que si j'étais présent au deuxième tour, ce qui serait le cas d'école le mieux pour le Front National et pour moi-même, qui suis le candidat, ça serait d'être présent contre le communiste à Sancy. Bon, là, il y a une dizaine de candidats. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont guère de chance, mais qui vont quand même picorer 1%, 2% par-ci, par-là. Il y a 4 candidats écologistes parce que là, c'est la folie totale. Ils ont des dissidents un peu partout. Il y a des gens dont on parlait tout à l'heure de l'Alliance populaire, là, qui reprennent les thèses du Front National et qui marquent sur leur traque exactement les mêmes choses que nous. Mais enfin, on verra bien le résultat. Je pense franchement, je l'espère, et les militants qui se battent avec moi l'espèrent aussi, que je serai devant le candidat de l'UDF. S'il s'avérait que je sois candidat unique contre Assensi au deuxième tour, ben c'est là qu'on verra exactement de quel bois se chauffent les gens de l'UDF et du RPR, et s'ils sont une fois de plus d'accord pour laisser passer le communiste.
Alors, il faut quand même que tu nous expliques. Donc, tu nous as dit, c'est une circonscription dans laquelle il y a 130 nationalités qui sont représentées.
Dans la totalité de la Seine-Saint-Denis, sur Sevran, Villepinte-Tremblay, bon, j'ai l'appui de certains groupes de gens d'Afrique du Nord, hein, qui savent très bien que mon nationalisme français ne fait pas de moi un raciste, hein. Et ces gens qui ont choisi la France voici 20 ou 30 ans ou 40 ans pour certains, bon ben pensent que nous sommes les seuls qui pourrions demain mettre de l'ordre dans le pays, et eux sont d'accord pour que nous mettions de l'ordre dans le pays, parce que les trois quarts, ceux qui sont sérieux parmi eux, pensent qu'un pays ne peut pas se survivre à lui-même en laissant la chienlit s'installer partout.
Alors, en dehors d'Assensi, tu nous disais il y a 4 candidats écologistes.
Oui, il y a 4 candidats écologistes, un candidat de l'Alliance populaire, un candidat socialiste, hein, l'UPF, qui est un UDF, et moi. Plus quelqu'un du CNI, oui. J'ai pas toutes les photos là. Plus quelqu'un du CNI. Bon, alors je ne les compte pas pour quantité négligeable, parce que moi je suis respectueux des militants qui se battent pour leurs idées. Je suis moins respectueux des gens qui se battent pour faire quelques voix et pour créer des problèmes au Front National. Je pense que le Front National avait assez de problèmes comme cela, sans que des dissidents, hein, viennent en remettre. Parce que les trois quarts de ces dissidents ont bien souvent été virés de chez nous pour avoir été plus à droite, plus extrême droite que nous. Et aujourd'hui, quand ils font campagne contre nous, les mêmes thèmes que l'UPF ou les socialistes, ça fait doucement rigoler. Mais moi, je crois que ça mérite qu'on se batte. Je pense qu'on peut faire un très très bon score.
Comment ça se passe au Conseil régional ?
Au Conseil régional, Monsieur Giraud a eu sa majorité en s'alliant avec les écologistes.
Mais justement, qu'est-ce qu'ils font,
les écologistes au Conseil régional, si on nous dit dans le pays qu'il y a des regroupements écologistes pour les élections, d'abord ça n'est pas totalement vrai, c'est même en grande partie faux. Et au Conseil régional, ils sont déjà 3 ou 4 groupes, ils se sont divisés, ils ne s'entendent absolument pas entre eux. D'ailleurs, la propagande qui est faite sur toutes les chaînes de télé et de radio pour les écologistes, c'est quand même ahurissant, parce que nous, ils nous ont reproché pendant des années de ne pas avoir de programme, alors que nous en avions un. Nous en avons maintenant un en béton, puisque nous nous sommes penchés sur tous les problèmes et nous avons essayé d'apporter des solutions à tous nos problèmes. Alors là, ils ont dit que 300 mesures, c'était quand même un peu trop. Si on en avait mis 40, ils auraient dit avec 40 mesures, ils veulent régler le pays. On en a mis 300 parce qu'il y a des sous-mesures, il y a un tas de choses à voir, hein. Et je pense qu'en définitive, comme tout est à revoir dans le pays, on aurait peut-être pu avoir 600 mesures au lieu de 300.
Même
enfin,
2000.
Il continue quand même, cette fois-ci que nous avons un programme, qu'il est imprimé, qu'il est distribué, qu'il est en vente. Bon, il n'en parle pas. Par contre, il parle de celui des écologistes, alors que les écologistes n'ont absolument aucun programme, à part, comme disait Le Pen, apprendre à chanter aux petits oiseaux. Et je vois dans les questions, par exemple, que m'a envoyé Le Parisien pour que je réponde, ben, tout tourne plus ou moins autour de l'écologie, ce qui me fait doucement rigoler, étant donné que nous avons toujours défendu la campagne française, nous avons toujours fait en sorte que la verdure persiste, nous avons été contre le béton parmi les tout premiers, enfin en définitive, hein, on a fait de l'écologie sans le savoir, puisque le respect de la France et le respect des Français, c'est quand même la meilleure des écologies en définitive.
Ah, tu vois, il y a un auditeur qui est argentin, qui vit en France, et qui dit « Je suis ébloui par ce que dit ce monsieur, pardon, sur votre radio. Félicitations. » Alors, je précise que cette radio, d'ailleurs, c'est Radio Courtoisie, qui émet à Paris sur 95.6. Non, il faut le dire, Victoria.
Pas toutes les...
Il faut le dire trois fois par heure.
Il faut dire que c'est Radio Courtoisie, mais c'est pas la peine de dire toutes les fréquences.
Mais si, bien sûr. Mais écoutez, les gens qui sont à Chartres, qui essayent de nous avoir sur 95.6,
ben, du moment qu'ils nous ont,
faut bien,
ça va.
Faut bien leur dire que
c'est pas la peine de leur dire.
Moi, je pense d'ailleurs que si nous avions accès régulièrement et normalement à la télévision, hein, comme les autres partis, parce que quand on voit Jean-Marie Le Pen qui passe, ou Karl Lang, ou Bruno Maigret de temps en temps, bon ben, disons que Le Pen passe un peu plus souvent, les autres passent au moment des élections, alors que nos adversaires, non pas nos ennemis, mais nos adversaires politiques, passent pour le PR, pour l'UDF, pour le RPR, comme représentant du groupe de ces trois partis, donc ça fait trois à l'Assemblée nationale, comme représentant de ces trois groupes au Sénat, comme ceci, comme cela, et c'est toujours des... ils ont toujours des gens...
Sans compter quand on entend le président d'honneur de l'UDF, monsieur... Monsieur Léotard, qui est président d'honneur, quand même.
Monsieur Léotard, qui a construit le mur autour de sa villa tout seul, et qui va demain prétendre diriger le pays, enfin...
Mais il construira peut-être les HLM tout seul, quand il sera...
Bon, j'espère qu'on lui fera reconstruire l'Élysée quand il sera là. Il y a pas mal de bricoles à refaire.
Roger, j'espère que la prochaine fois que tu viendras, je pourrai t'appeler monsieur le député, une fois de plus.
Eh bien, on se bat pour ça, mais ce qui fait que les autres sont dans l'erreur, c'est que nous sommes un certain nombre, dont moi, dans ce mouvement, à nous battre pour être député, pour aller représenter nos idées à l'Assemblée nationale. Mais s'il arrivait que nous ne soyons pas députés, c'est pas pour ça qu'on baisserait les bras et qu'on arrêterait le combat.
Oui, ça, je pense que si tu avais dû arrêter de militer le jour où t'as plus été député, ça aurait fait du bruit dans Landerneau, ça nous aurait bien amusé. Merci Roger.
Ben, je dis bonsoir à tous les amis de Radio Courtoisie. Et
puis bon courage.
Et je leur annonce à tous, quelques mois à l'avance, que la fête du CNC au château, avec le chanteur Daniel Guichard, aura lieu le 20 juin. Mais je reviendrai en parler.
Ah, je pense qu'on aura le
plaisir
d'en
parler. Oui, mais je préfère qu'ils notent tous sur
leur
petit carnet.
Donc notez tous que le
20 juin, fête du CNC au château de Neuvy.
Merci. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité de ce soir, qui est Monsieur Beaujeau. Alors, Monsieur Beaujeau est président d'une association qui a un nom magnifique, elle s'appelle Scola Saint-Martin. Et ben, vous allez nous expliquer ce que c'est que la Scola Saint-Martin. Une Scola, c'est une chorale, non ?
Scola, c'est une chorale, oui. Notre association, la Scola Saint-Martin, est issue de la chorale paroissiale de Garges-lès-Gonesse, dont j'ai été le maître de chapelle pendant 25 ans, avec M. l'abbé Perderel comme curé. Et puis, nous sommes partis de la paroisse, parce que après le départ de l'abbé Le Perderel, nous avons eu un prêtre moderne qui nous a tolérés. On a eu notre messe de 10 heures qui était matinée avec les nouvelles lectures et l'ancien ordo. Et puis, alors, c'est là que nous sommes montés en association, parce qu'on s'est dit peut-être qu'un jour nous allons devoir partir. Mmh. Et nous avons collaboré pendant 5 ans, cohabité pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, le curé nous a annoncé un jour qu'on ne pourrait plus faire de catéchisme traditionnel. Alors on s'est dit, si la messe est déjà parsemée d'arsenic dans les sermons, si on peut plus faire de catéchisme traditionnel, on a pris la décision de partir. Et nous sommes maintenant, les choristes qui restent, qui sont restés, la majeure partie, d'ailleurs il y en a deux ou trois qui n'ont pas suivi, nous chantons la messe à Saint-Mathias de Pontoise et à Conflans-Sainte-Honorine.
Mais vous êtes allé un petit peu vite dans le récit, enfin dans l'évocation du père, le père de Rel, parce que vous nous dites, bon il est parti en 86. Hein.
En 86, en juillet 86.
C'est intéressant que vous nous racontiez pourquoi il est parti, comment ça s'est passé.
Ah, il est parti, ça c'est de l'histoire ancienne, mais enfin on peut revivre un
petit
peu.
Vous savez, l'histoire est faite pour édifier les populations et les préparer à l'avenir. Alors
l'abbé Père de Rel a été obligé de quitter sa paroisse à 73 ans, donc 2 ans avant la retraite légale, puisque maintenant les curés prennent leur retraite à 75 ans, parce que l'évêque l'a limogé. Pour la chose suivante, c'est que nous avions reçu Mgr Lefebvre qui a pris la parole lors d'une cérémonie à la paroisse, un dimanche, et que, à la demande des parents, de plus, Monsieur le curé a conduit les enfants pour se faire confirmer dans une chapelle traditionnelle, mais c'était à la demande des parents. Là, M. le curé n'a fait qu'obéir aux parents qui voulaient que...
Qui était cet évêque excommunicateur?
Alors, à l'époque, c'était l'évêque de Pontoise, c'était Mgr Rousset.
Non, je pose la question parce qu'il vaut mieux savoir à qui on a affaire. Donc ça, c'est en 86, l'abbé le père d'Aurel est chassé, et vous voyez arriver un nouveau curé, un camarade curé.
Oui, on peut dire camarade curé, oui, c'est peut-être un peu vulgaire, bien que ce soit un homme très, très dévoué. Il a été militant syndicaliste, ça il me l'a dit. Et on l'a vu afficher des affiches aux campagnes prud'homales, non pas ces dernières, celles de cette année dernière, mais celles d'il y a 5 ans. Et son but, c'était d'amener la paroisse à la messe moderne au bout de 5 ou 6 ans. Et cette année, c'est sa dernière année. D'ailleurs, je crois qu'il doit s'en aller à la fin du mois de juillet cette année. Et il aura fait passer la paroisse à la nouvelle messe, me semble-t-il, attention.
Alors, donc vous êtes cette chorale qui chantait a quitté l'église Saint-Martin de Garges-lès-Gonesse et s'est installée, ou plus exactement, a commencé à chanter de façon itinérante, enfin dans d'autres paroisses.
Absolument pas. Nous avons été directement à la chapelle Saint-Mathias de Pontoise. Ah. Ça a été juste la réouverture de la chapelle s'est faite le 15 septembre 91 et la messe a été chantée par l'abbé Calier, qui est un jeune prêtre ordonné à Icône en 91, mais qui est un enfant de Garges.
Ah oui.
Et il a été enfant de cœur à Garges-lès-Gonesse, il a fait sa communion à Garges-lès-Gonesse, et ensuite il a été à l'école de Châteauroux, mais tous les dimanches il était à la messe de Garges, si bien que pour nous c'est un peu le prêtre de notre paroisse. Et nous avions été demandés à l'abbé Ducoing, le curé actuel de Garges-lès-Gonesse, l'autorisation de laisser chanter une messe par l'abbé Calier dans la paroisse où ce jeune prêtre a été enfant de cœur et a fait sa communion solennelle. Ça a été un non, bien entendu, et je me souviens, l'abbé Ducoing nous avait répondu à l'époque, j'aurais un ami qui serait ordonné pope, j'irai à son ordination.
Oui, mais pas un prêtre d'Écône.
Ouais, pas un voilà.
Non, non, mais ça c'est bien clair, on a la manœuvre, on la connaît depuis un moment déjà. Alors, ce qui est pas très clair, enfin ce qui est pas très clair, non pas que ça soit douteux ou obscur, mais ce qui paraît d'une logique un peu étrange, c'est que vous soyez passé du statut d'association chorale au statut d'association organisatrice de pèlerinage.
Ah oui, alors, bon, dans nos statuts, il est prévu que nous continuons à assister et animer la messe, comme la disait notre père curé, l'abbé le père de Rel, et pour ce, nous avons aussi tous les moyens de formation, catéchisme, tournée, etc., etc.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement une chorale, vous êtes ce qu'on appellerait maintenant un conseil paroissial, en réalité, ou un comité de paroisse, je sais pas comment ils appellent ça.
Bah, c'est-à-dire, nous sommes une association légalement formée, avec un président, un secrétaire, un trésorier. Et puis, donc, comme ça nous permet justement d'étendre nos activités.
Qui organise toute l'activité religieuse de la paroisse, c'est-à-dire vous chantez à la messe, vous faites le catéchisme.
Alors, exactement, tous les dimanches matins, donc, nous assistons, nous faisons les chants à la Saint-Mathias, pardon, et nous avons la semaine, il y a le catéchisme. Donc, c'est une chapelle tenue par les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis. Mmh. Donc, nous faisons tout ce qui se fait dans une paroisse. D'autant plus qu'à Conflans-Sainte-Honorine, la chapelle est montée déjà depuis une bonne dizaine d'années. Donc, il y a toutes les structures d'accueil comme dans une paroisse. Mmh. Et alors, bon, les pèlerinages, si vous voulez, c'est la demande de pèlerins, de choristes, qui nous ont demandé, tiens, dis donc, pourquoi vous ne feriez pas un pèlerinage à Jérusalem? Nous avons l'intention d'y aller pour nos 20 ans de mariage. C'est un couple de la paroisse, de la chorale. Alors, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas ce pèlerinage? Nous l'avons fait en 91. Et puis, en 91, il y a des personnes qui n'ont pas pu venir. Alors, nous avons dit, ben, on va en faire un l'année prochaine, en 92. Et puis, entre-temps, j'ai été voir M. l'abbé Aulagnier, pour vous dire ce qu'il y a, et je lui ai demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer ce pèlerinage tous les ans pour en faire le pèlerinage de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. L'abbé Aulagnier était d'accord, mais on garde notre statut de Scola Saint-Martin, mais c'est les aumôniers et les prêtres du pèlerinage sont les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis.
D'accord. Et maintenant, vous ne faites plus appel seulement à des fidèles de votre paroisse, mais vous recevez aussi bien des fidèles de d'autres paroisses, d'autres
villes. Ah bah, bien entendu, oui, tous les chrétiens traditionnels sont les bienvenus dans nos chapelles. Et alors, nous faisons pour ces pèlerinages, nous faisons de la réclame au niveau national, même en Suisse francophone, enfin disons un peu partout.
Alors, comment ça se passe, ces pèlerinages?
Alors, les pèlerinages, l'intendance, si vous voulez, nous confions l'organisation à une agence de voyage spécialisée, qui se met en relation avec une agence en Terre Sainte, et nous mettons en accord avec eux pour les prix, pour l'itinéraire. Alors, si vous voulez, les pèlerinages, nous avons un programme. Ce pèlerinage dure 12 jours. Nous avons un premier jour, nous arrivons en Terre Sainte, nous faisons Césarée Maritime, c'est un petit peu l'histoire des croisés. Nous allons à Saint-Jean d'Acre. Ensuite, le deuxième jour, nous sommes à Nazareth et nous réunons sur toute la Galilée. Nous avons l'Annonciation, nous allons au Mont Tabor. Nous vivons les trois années de notre Seigneur Jésus-Christ que notre Seigneur a passé à enseigner. Ensuite, nous descendons sur Jérusalem, et là, nous restons 7 nuits à Jérusalem. Nous pouvons aller tous les jours au Saint-Sépulcre, et nous faisons notre chemin de croix, et nous allons dans tous les lieux, nous rayonnons, nous allons à Bethléem, bien sûr, et tous les jours, la messe est assurée dans un lieu saint, par un des aumôniers qui est avec nous, c'est toujours la messe de Saint-Vicent, bien entendu. Nous n'avons pratiquement pas de difficultés majeures pour avoir des lieux pour dire la Sainte Messe, car en Terre Sainte, là-bas, les problèmes ne sont pas si aigus qu'en France.
Alors, comment peut-on vous joindre, où peut-on s'adresser si on veut participer à ces deux pèlerinages? Alors, il y a le pèlerinage en Terre Sainte qui est du 22 août au 2 septembre 93, c'est le troisième. Quel est le prix? Oui, alors, Philippe, qui a toujours le sens des réalités, me fait signe de vous.
Alors, le prix du pèlerinage en Terre Sainte est 8 350 francs, tout compris.
Pour combien
de temps? 12 jours.
Pour 12 jours. 8 350 francs pour 12 jours. Philippe, au lieu d'aller à Disneyland, vous irez en Terre Sainte avec mes bottes. 8 350 francs pour 12 jours, ça fait moins de 800 francs par jour. Beaucoup moins, 700 francs par jour.
Tout est compris. Ah, tout est compris.
Vin compris, comme on dit.
Les boissons, non. Comme dans tout voyage organisé, les boissons et les à côté sont laissés à la discrétion d'un chacun.
Les boîtes de nuit, tout ça, c'est...
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Dommage. Il paraît qu'à c'est pas Jérusalem, c'est Tel Aviv. Il paraît qu'il y a des boîtes de nuit superbes.
Peut-être, mais enfin, disons que ce pèlerinage est quand même un pèlerinage.
Ah ben oui, c'est vrai. Bon, alors donc, 8 350 francs pour...
12 jours.
Pour 12 jours, c'est vraiment...
Aller-retour en avion charter.
C'est pas cher.
Non, c'est pas cher.
C'est une nuit d'hôtel, deux repas, le voyage, les autocars et tout ça, c'est tout à fait raisonnable. Donc c'est pas une affaire commerciale que vous
absolument
faites.
Absolument pas.
Clairement.
Bon, absolument pas. Non.
C'est d'ailleurs
non,
pour
les
ça
prix sont très très tirés parce que bon, il y a beaucoup de demandes et puis. Alors pour.
Et pour Rome, du 13 au 24 avril.
Alors, il faut faire vite. Le 13 au 24 avril, oui. Alors le prix est 3 950 francs. Mmh. Et alors, c'est pareil. Alors là, nous allons en car. Car confortable.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire, oui, bien sûr. Car confortable. Et nous passons par le tunnel de Chamonix. Nous arrivons à Turin. Turin, nous faisons une soirée prière à San Damiano. Et le lendemain, nous allons.
Ah, ça y est, Philippe fait la grimace. Lui, il est pas pour San Damiano.
Oh, juste une soirée prière. Prière à San Damiano.
Je ne vois pas pourquoi on prierait pas à San Damiano. Pourquoi ce serait le seul endroit au monde où il serait interdit de prier?
Exactement.
C'est quand même
bien
extraordinaire,
sûr.
Ça.
Bien sûr. Alors, le lendemain, nous allons à Lorette, voir la maison de la Vierge.
Ah, très bien, ça, superbe.
Oui. Et ensuite, nous restons à Rome, tout le restant de la semaine.
Sainte Thérèse était allée à Lorette, elle avait même gratté le mur pour prendre un peu de... Eh oui, elle a gratté le mur de la maison, Sainte Thérèse. C'est pas bien, normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais si Sainte Thérèse qui l'a fait, elle a le droit. Voilà.
Et toc. Elle a été canonisée.
Oui.
Peut-être pas pour ça, moi.
Disons que ça lui a pas été tenu à charge, quoi. Donc, Notre-Dame de Lorette, enfin, pas Notre-Dame de Lorette, mais Lorette.
La maison de la Vierge à Lorette, oui.
Ensuite.
Ensuite, nous sommes à Rome pendant toute une semaine. Et alors là, nous faisons le pèlerinage des sept basiliques en une journée. À l'origine, ce pèlerinage se faisait à pied.
Oui,
mais maintenant, on a un autocar.
Puis j'espère qu'il est rapide, votre autocar, parce qu'il y a sept basiliques dans la journée.
Mais ça se fait dans la journée.
Oui, voilà.
Ça se fait dans la journée, oui. Alors, nous irons aussi à Subiaco, la première fondation de Saint-Benoît. Nous aurons une journée à Assise, sur les pas de Saint-François et de Saint-Clair.
Magnifique. Assise, c'est très très beau. C'est une ville splendide à voir, absolument. Mais en dehors des sessions où on reçoit les Indiens du Massachusetts, les adorateurs de l'oignon, etc.
Ouais. Et bien sûr, nous allons à Saint-Pierre de Rome, et puis voir les tombeaux des papes.
Est-ce que vous allez voir un pape vivant?
Je pense que nous serons le dimanche midi à l'Angélus du Saint-Père, oui.
C'est bien. Écoutez, voilà, c'est un bel exemple d'œcuménisme interne. À la tradition catholique, ça, si vous allez voir le pape.
Mais oui, il est notre Saint-Père.
Voilà, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Alors donc ça, le prix est de
3 950
francs pour 11 jours. C'est encore moins cher que Jérusalem. Et puis quand même, Rome, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est plus moderne, quoi.
Voilà, c'est toute la civilisation chrétienne, quand même. Puis les tombeaux de Saint-Pierre et Saint-Paul.
Et alors, il faut que vous nous donniez les coordonnées de votre association, comme on dit maintenant. Où s'adresse-t-on?
Alors, Scola Saint-Martin, à l'adresse 11 rue du Bel Air, 95 300 Henry, E2NERY.
Il y a un téléphone, peut-être?
Le téléphone 30 38 71 07, précédé du 16 et du 1 pour la région Paris, c'est la province.
Pour la province.
Oui.
Monsieur Beaujon, merci. Est-ce que vous recrutez des chanteurs?
Ah, bien entendu. Oui. Surtout en ce moment, nous avons besoin, parce que le renouvellement ne se fait pas... Dans le passé, notre père curé, tous les ans, nous trouvait des choristes. Donc on avait une chorale qui, à un moment donné, avait 42-45 personnes.
Ah, c'est bien.
Et maintenant, avec les deux groupes qui sont dans les deux chapelles, nous arrivons à 25-28. Et comme c'est la première année que les deux chapelles sont fondues, il y a encore du travail à faire pour homogénéiser les deux groupes. Mais on y arrive d'ailleurs pour Pâques. Nous préparons de belles polyphonies ensemble. Et demain soir, d'ailleurs, nous avons une répétition pour mettre au point les techniques.
Eh bien, écoutez, si on veut participer à votre chorale ou participer à vos pèlerinages, à Jérusalem du 22 août au 2 septembre ou à Rome du 13 au 24 avril, donc c'est-à-dire pendant la semaine de Pâques, on s'adresse à la Scola Saint-Martin, 11 rue du Bel Air, 95 300 Henry, 30 38 71 07, le numéro de téléphone. Merci Monsieur Beaujon.
Merci Serge de Becquet de m'avoir accueilli dans votre émission.
Je vais passer maintenant la parole à quelqu'un que vous lisez certainement toutes les semaines, je pense, puisqu'il s'agit de Marc Dehm, qui est l'auteur de Iota Unum.
Et je le rencontre très souvent d'ailleurs.
Ah ben voilà, vous avez de bonnes fréquentations. Marc,
oui,
êtes-vous avec nous?
Bonsoir Serge, je salue aussi Monsieur Beaujon qui est là.
Bonsoir, oui, asseyez-vous Monsieur Beaujon, vous restez avec nous bien sûr, si vous voulez poser des questions à Marc. Vous savez que... Marc, je vous avais demandé d'appeler à 19h15,
oui.
Mais finalement, on vous a fait lanterner au téléphone. J'espère que vous ne nous en voulez pas.
Ce n'est pas grave.
Sais que vous êtes confortablement installé dans votre magnifique bureau.
Voilà.
J'ai pas trop honte de vous avoir fait attendre. On va commencer à parler de la prochaine lettre de Iota Unum, mais on va certainement être interrompu par la nécessité de faire la coupure technique dans 3 minutes. Alors, vous ne nous quittez pas à ce moment-là.
Je rappelle que toutes les semaines, comme nos auditeurs fidèles le savent, nous évoquons rapidement le contenu de votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum et que l'on peut se procurer en envoyant une carte de visite à l'adresse suivante, boîte postale 52 78101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Alors, quelle bonne nouvelle, par pitié, quelle bonne nouvelle avez-vous à nous apprendre ?
Eh bien, il y a beaucoup de nouvelles en ce moment. Nous pouvons parler de l'une ou de l'autre.
Per carita, comme disent les Romains.
Oui.
Donnez-nous des bonnes nouvelles.
Alors, je vais commencer par une bonne nouvelle, si vous voulez. Si on peut l'apprécier comme telle. L'annuaire pontifical qui vient de paraître, celui de 1993, note une augmentation du nombre des prêtres dans le monde.
Oui.
Hélas, cette augmentation n'est que de 0,2% et concerne principalement l'Asie et l'Amérique. Donc, dans l'ensemble, ça ne fait quand même pas une grosse augmentation. Mais enfin, c'est quand même une bonne nouvelle dès qu'il y a un frémissement, comme disait Pierre Mauroy.
Oui, il vaut mieux que ça aille dans ce sens-là que dans l'autre.
Oui. Alors, je ne sais pas si nous avons le temps d'entendre la deuxième nouvelle.
Oui, oui, nous avons le temps dès que j'aurai fini de tousser.
Bon, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, alors. Bon, c'est l'analyse que je fais. Dans la une, il y a toujours une analyse d'un problème actuel de la position du cardinal Ratzinger sur l'œcuménisme. On est assez surpris, assez inquiet de voir que cardinal Ratzinger suggère que les frères séparés et nous-mêmes, nous reconnaissions les uns les autres. Il faut, dit-il, apprendre de l'autre et se laisser corriger par l'autre. Alors, c'est déjà assez grave dans la pratique. Je suppose que dans la pratique, ça doit vouloir dire que il faut vous laisser corriger par un luthérien qui vous dira qu'il ne faut pas croire tout à fait qu'il y a sept sacrements,
oui.
Ou par un calviniste qui vous dira que la présence réelle, c'est de la blague. Se laisser corriger, c'est quand même bien ça.
Bon. Ben c'est ça, oui, bien sûr.
Alors, reconnaissons l'autre, le frère chrétien, reconnaissons les églises sœurs, aimons la communauté de l'autre. Et nous arrivons à sa proposition, qui est d'être unis dans l'essentiel. Dans l'essentiel pour témoigner devant le monde. Être unis dans l'essentiel, c'est quoi ? Bien, ma foi, on va laisser de côté, apparemment, tout ce qui nous distingue, tout ce qui nous sépare, et puis ne retenir, selon la formule bien connue, que ce qui pourrait nous unir, c'est-à-dire la réalité de Dieu, là je le cite, la réalité de Dieu, la réalité du jugement et de la vie éternelle. Ce qui n'est pas peu de choses, mais enfin, ce qui est loin d'être tout d'une religion.
L'incarnation, c'est pas un problème, ça.
L'incarnation, si, je crois que ça doit...
Ça fait quand même partie du
problème. Ça doit faire partie.
Non, parce qu'autrement, on va tous à Jérusalem et puis voilà, le problème est terminé.
Oui, oui.
Mon cher Marc, je vous demande de rester avec nous quelques instants. On va faire la fameuse opération qui consiste à retourner les bobines. J'ai toujours pas compris comment ça marche, mais enfin, je sais qu'il faut le faire.
Eh bien, retourner les bobines, oui.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch assisté de Victoria. Émission du 10 mars 1993, rediffusée dimanche 12 juillet 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Ah, je suis désolé de couper le magnifique organe d'Alexis, mais nous devons retourner vers Marc Dem pour...
de nouveaux détails sur le contenu de sa lettre confidentielle d'information religieuse, Iotaonum. Mon cher Marc, avez-vous d'autres choses plus réconfortantes à nous dire ?
Je termine sur l'affaire Ratzinger, là.
Oui.
Oui, ce qui est plus troublant encore, c'est qu'il envisage la fin ultime de ce mouvement œcuménique, la fin ultime, comme un regroupement de toutes ces confessions dans l'unité, mais avec leur pluriformité, dit-il. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est la conception que l'on croit dégagée du Concile Vatican II, qui consiste à dire que l'Église catholique subsiste dans l'Église de Christ, mais n'en est qu'un élément.
Oui, c'est ça, oui, bah, oui, par le fait, quoi. Et même monsieur Beaujeau me paraît complètement abasourdi. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, ce ne serait pas l'événement du Masdu?
Oui, bien
ça
sûr.
Ça ressemble.
Comme dirait quelqu'un que nous connaissons.
Et oui, ça ressemble tout à fait au Masdu, au fameux mouvement d'animation spirituelle
et de démocratie universelle.
Démocratie universelle dont l'abbé de Nantes prophétisait l'avènement pour notre temps. C'est quand même là, il y a des moments où il a des fulgurances, l'abbé de Nantes.
Il y a des moments où c'est prophétisé.
À propos de l'abbé de Nantes, je voudrais profiter, puisqu'on en parle, je voudrais profiter de cette occasion pour faire une petite mise au point. De temps en temps, je reçois des lettres, notamment d'un monsieur au demeurant charmant qui m'écrit souvent, des lettres qui me disent pourquoi n'avez-vous jamais reçu, pourquoi ne voulez-vous pas recevoir les représentants de la Maison Saint-Joseph, l'abbé de Nantes ou le frère Bruno Bonnet-Aymard, etc. Alors je vais répondre une fois pour toutes, mais j'aurai certainement l'obligation d'y revenir un jour ou l'autre. L'abbé de Nantes est d'autant plus invité en permanence qu'il a participé d'une façon fort amicale au départ de Radio Courtoisie. Il se trouve que chaque fois que je lui ai demandé de participer lui-même ou de faire participer un de ses frères à cette émission, un de ses fils à cette émission, il a refusé. Il ne veut pas utiliser le canal de la radio pour s'exprimer. Il trouve que ses réunions, ses conférences sont largement suffisantes et c'est son droit le plus strict. Cela dit, j'ai souvent parlé des travaux du frère Bruno Bonnet-Aymard. Alors, je voudrais pas qu'on considère que c'est moi qui ai censuré l'abbé de Nantes, alors que c'est lui qui veut pas venir, tout simplement. Et je répète que je n'avais aucune raison de l'empêcher de venir, bien au contraire. Voilà, petite mise au point au passage, comme ça. Alors, vous avez droit encore... Vous voulez dire quelque chose ?
Un coup.
Vous avez droit encore un coup, oui, comme on dit.
Bon, ben, il faut... On ne peut pas laisser passer sous silence l'opération... de dimanche, l'opération de prise d'église.
On peut d'autant moins la passer sous silence que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attendais M. l'abbé Laguéry pour nous en parler, et puis M. l'abbé Laguéry, il a été appelé à d'autres obligations, sans doute, et il n'est pas venu.
Oui. Alors moi, je donne ce qu'il est utile d'en savoir, si vous voulez, dans la prochaine lettre. Il y a des choses que j'ai encore à trouver, des dessous que j'ai encore à trouver, que je n'ai pas encore trouvé. Mais, bon, c'est une opération qui a été apparemment belle, parce que, comme elle était préparée dans la plus grande discrétion, je n'avais pas été averti, donc je n'y étais pas. Mais j'ai pu enquêter, et donc c'est une belle opération.
Le problème entre nous, je vois M. Beaujolf et moi non plus, j'ai pas été prévenu.
Oui.
Moi, il se trouve que j'ai pas été prévenu non plus, alors on finit par se demander qui a été prévenu.
Oui, alors c'est peut-être une raison de l'échec de l'opération.
C'est sûr que quand les manifestations secrètes, elles présentent l'inconvénient de ne pas rassembler beaucoup de monde.
Oui, oui, oui. Alors il y avait beaucoup de monde. Il y avait à peu près 2000 fidèles de Saint-Nicolas qui s'y étaient transportés. Mais c'est quand même une troupe improvisée. Hein, ce n'est pas le...
Sous moi, cette troupe s'avance.
Oui. Donc j'ai l'impression qu'il manquait, et d'après les réflexions que j'ai pu entendre de gens qui s'y connaissent, qu'il manquait des militants en nombre suffisant, hein, et peut-être une stratégie. Mais enfin, c'était une belle opération, et puis ma foi, c'est certainement une chose qu'il faudra reprendre un jour.
Oui, oui, bah, je pense. Vous parlez de Saint-Germain-l'Auxerrois?
Pas forcément.
Si, quand même, c'est... Parce que ça fait, on peut le dire maintenant, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle.
Oui.
Et il y avait même des plans extrêmement sérieux qui avaient été mis au point par un de mes camarades.
Oui.
Il faudra un jour peut-être que ça soit...
Vous enfin, parlez bon. De Saint-Germain?
Oui, oui,
c'est oui, oui, oui.
Saint-Germain-l'Auxerrois.
Enfin, c'est quand même des plans sur la comète. On ne savait pas que ça allait...
Ah, cette fois-ci, non, mais la fois précédente, c'était très bien organisé.
Oui,
mais ça
oui,
n'a
oui.
pas eu lieu par décision de l'autorité supérieure.
Mm-hmm.
Et, voilà. Je n'en dirai pas plus. Merci Marc. Je rappelle que ces trois informations que vous venez d'évoquer font partie, on peut dire, d'une bonne centaine d'autres informations et commentaires qui, chaque semaine, se trouvent dans votre nom passant. Combien? Combien, Marc, d'informations?
Oh, il y en a beaucoup, hein. Je vais compter 40 à 50.
À 50, oui, j'avais doublé. Donc,
une
bonne cinquantaine d'informations qu'on trouve dans la lettre confidentielle d'information religieuse, Iota Unum, dont l'adresse est, boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci, monsieur Bougeau. Alors, un auditeur, bon, beaucoup d'appels d'auditeurs, avant de donner la parole à monsieur Cazeneuve, un auditeur nous s'étonne qu'on n'ait pas relevé la phrase de Claude Chabrol, qui, en parlant du maréchal Pétain, l'a appelé l'ordure intégrale, mais je dois dire que quand j'ai... Oui, mais quand j'ai entendu ça, j'ai cru que Chabrol parlait de lui-même. C'est pour ça que j'ai pas réagi. Et oui, bien sûr, je ne pouvais pas penser une chose pareille. Alors, un auditeur me dit, au début de l'émission, vous avez parlé de Saint-Germain-l'Auxerrois, et j'ai cru entendre que vous disiez, c'est de là qu'est parti le signal de la Saint-Barthélemy, que vouliez-vous dire? Mais j'ai vaguement le souvenir que c'est au clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois qu'a été battu, le tocsin qui donnait le signal de la Saint-Barthélemy. Monsieur Cazeneuve, oui, je vous prends à témoin, aussi, vous êtes historien, entre autres, j'avais gardé ça en mémoire, mais un auditeur à propos de l'immigration, la Corse et la France, il y a deux départements, c'est vrai, il nous dit, y a-t-il beaucoup d'immigrés en Corse? Oui, je crois que le pourcentage d'immigrés en Corse est supérieur au double de celui du reste des départements français, c'est-à-dire c'est plus de 20%. Une auditrice nous parle du parti de la loi naturelle. Et effectivement, j'ai vu le début de leur campagne, j'ai bien rigolé. Ils sont très drôles, vous les avez vus, non?
Non, non.
Ah, ils sont rigolos, on dirait des personnages d'une série télévisée de science-fiction des années 60. Ils sont très drôles. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est à peu près tout. Ce sont les seuls appels qui appelle un commentaire. Un auditeur nous dit quand même la ville d'Argenteuil est dans un état catastrophique, les habitants s'en vont, ils quittent même les HLM. Oui, ça, on le sait, mais il n'y a pas qu'Argenteuil, d'ailleurs. Et voilà. Alors maintenant, je me tourne vers Monsieur Jean Cazeneuve, que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté de venir dans cette émission. D'abord parce que le sujet qu'on va évoquer est un sujet magnifique et passionnant, puisqu'il s'agit d'une... des mœurs et des cérémonies en usage dans une tribu indienne. Moi, je fais partie de ces gens que Lugan poursuit de sa vindicte et qui sont les indianistes de droite, parce qu'il nous reproche d'aimer les Indiens. Moi, j'aime bien les Indiens, je dois dire en général. Mais ensuite, je suis très sensible à la présence de Jean Cazeneuve parce que, si vous me passez l'expression, vous êtes un des plus beaux ornements que cette émission ait reçu depuis qu'elle existe.
C'est beaucoup plus que
non, c'est vrai. Vous savez, on me fait souvent le reproche d'avoir dans mes émissions un ton un petit peu relâché. Et alors, recevoir un membre de l'Institut, normalien, agrégé, docteur, professeur de sociologie à la Sorbonne, en outre, ancien ambassadeur au Conseil de l'Europe et ancien PDG de TF1. Enfin, c'était de TF1.
Oui, TF1.
Eh bien, je trouve que ça rachète absolument toutes les choses mauvaises que j'ai pu faire pendant 5 ans. Et je vous remercie de racheter ainsi cette émission en lui donnant le brillant qu'elle n'avait pas avant vous. Alors tous ceux qui sont venus avant vous vont se sentir horriblement vexés.
Oui, oui, oui.
De ce propos, bien sûr.
Oui, oui, je le mérite pas.
Et alors, en réalité, la vraie raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que j'ai été stupéfait de découvrir votre livre. Parce que c'est vrai, on vous connaît, on vous connaissait pas du tout comme, enfin moi je vous connaissais pas du tout comme un explorateur et comme un ethnologue. Et surtout comme quelqu'un qui est capable de se prendre d'une passion pour une tribu indienne inconnue, absolument inconnue. Si vous leur aviez pas consacré ce livre, ils seraient restés dans l'ignorance, enfin ils auraient été ignorés jusqu'à la fin des temps. Et alors, c'est un livre de jeunesse, puisque
oui.
Vous l'avez publié il y a maintenant 35 ans.
Eh oui, oui. C'était en 54 que j'étais chez les Indiens. J'ai passé 8 mois dans cette tribu.
Et c'est un livre de jeunesse que Olivier Delaveau a décidé de republier dans sa très très belle collection Nuages Rouges. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la première collection en langue française qui est consacrée aux Indiens d'Amérique.
Absolument.
Et qui les évoque d'une façon, en général, magnifique, avec, dans cette collection qui est parue le livre Danse avec les loups, le livre du film, dans cette collection qui est parue l'admirable, je pèse mes mots, Little Big Man, de Thomas Berger, le splendide Forrest Carter, Pleure Geronimo,
oui.
Qui est vraiment un très très beau livre. C'est également cette collection qui a ressuscité Fenimore Cooper,
oui.
Avec Le Dernier des Mohicans, et qui a publié le Sitting Bull de Stanley Vestal. Enfin, vraiment, c'est une collection qui fait un très très beau travail pour ceux qui ont gardé, comme vous probablement, et
oui.
Comme moi, la nostalgie des oui. Indiens, des westerns de notre enfance. Alors, les Indiens unis, ça s'écrit Z-U, Zuni d'ailleurs.
Zuni.
On doit mouiller le...
Oui, c'est ça, oui,
le
Rima sur le...
Alors, c'est pas des Indiens de western.
Non, effectivement. Dans les westerns, on voit plutôt les Indiens nomades. Or, dans cette région qui est le Nouveau-Mexique, et tout proche d'ailleurs de la frontière de l'Arizona, vivent des tribus d'Indiens sédentaires, cultivateurs, avant même la découverte de l'Amérique par les Blancs. Et puis d'autre part, à côté d'eux, des nomades. Ce sont des tribus qui vivent sous des tentes, qui se déplacent. Et avant la colonisation blanche, par les Espagnols d'abord, et maintenant par les Américains, ces nomades, à savoir les Navajos et les Apaches, faisaient des coups de main, des razzias, sur les braves agriculteurs, qui, eux, vivaient dans des villages construits de maisons à plusieurs étages, qui avaient une civilisation avancée. Ils ne connaissaient pas l'écriture, ils étaient moins avancés que les Aztèques, leurs voisins du Sud, mais par rapport aux autres Indiens, ce sont donc des gens qui avaient des coutumes, une morale même, une politesse, tout ça avant l'époque actuelle, c'est-à-dire dans les périodes précolombiennes, et ils ont conservé tout ça tout à fait intact. Et je dirais qu'ils s'enracinent dans ce passé pour conserver leur identité.
Alors, quelle est leur origine ? Est-ce qu'on a une idée de...
Oui, parfaitement. C'est d'ailleurs dans cette région-là qu'on trouve les vestiges les plus anciens de la préhistoire. Presque tout le monde est d'accord pour dire maintenant que les peaux rouges, puisqu'on les a appelés longtemps comme ça, sont originaires de l'Asie. Ils sont passés par le détroit de Bering et puis ils se sont répandus.
En poursuivant probablement des troupeaux de rennes.
Probablement, oui, très probablement. Et puis alors ils se sont fixés plus ou moins haut, plus ou moins bas. C'est allé jusqu'à la Terre de Feu. Mais là, dans cette région, Nouveau-Mexique, Arizona, on trouve les plus anciennes traces d'une civilisation, si on peut dire, tout à fait préhistorique. On les appelait les Anasazis, aussi ensuite ça a été les basket makers, c'est-à-dire les fabricants de paniers.
Oui.
Voilà. Et puis les Indiens Pueblo, puisqu'il s'agit d'eux, ces Pueblo, sont donc les descendants de...
Les Indiens Pueblo, ça veut dire les Indiens villages.
Qui habitent dans des villages.
Qui habitent dans des villages.
Exactement. C'est ce qui les caractérise par rapport, je vous dis, aux nomades.
Ce sont des sédentaires.
Ce sont des sédentaires. Ils cultivent le maïs. Ils vivent de ça. Ils ont toujours vécu de ça, enfin, depuis très longtemps.
Est-ce qu'on trouve une... Pardon. Est-ce qu'on trouve une raison... je dirais... Pardon. En employant un mot horrible et interdit, une raison raciale au fait que certains Indiens sont devenus sédentaires et d'autres ont continué
non,
à
ça,
être
vous
nomades.
Savez, je crois que ce sont des mystères de l'histoire des civilisations, de même qu'on trouve difficilement une raison pour laquelle il y a des peuples qui sont restés primitifs ou archaïques et d'autres qui ont évolué comme nous. Que s'est-il passé? Les mythologies, les légendes qu'ils racontent, non, probablement ne sont pas véridiques, ce sont des mythes. Ils racontent par exemple que les premiers hommes qui ont été créés par le grand dieu Avalonvillana, qui est le dieu du soleil, vivaient d'abord dans des mondes souterrains. Il y avait 4 ou 5 mondes souterrains étagés et l'histoire que c'est trop longue à raconter, fait que peu à peu, ils ont réussi à parvenir à la surface et au soleil. Et une fois là, ces populations, qui étaient des pueblos, ont cherché le centre du monde. Et donc, ils se sont établis là, croyant, pour je ne sais quelle raison, qu'ils étaient au centre du monde. Mmh. Et leur idée, c'est que donc cette civilisation pueblo, qui est la leur, est primordiale. Et là, un destin qui a été fixé par les divinités.
C'est-à-dire, c'est l'origine, le creuset de l'humanité, oui. Et c'est une civilisation qui est en plus missionnée,
oui.
Pour accomplir le destin de l'humanité.
Absolument, absolument. Et ce sont eux qui sont au centre du monde, et c'est pour ça qu'ils sont établis là, il n'est pas question qu'ils en bougent, donc c'est peut-être cette croyance qui les a rendus sédentaires, moins que ce soit l'inverse.
Mmh. Alors c'est extraordinaire de voir se développer dans une population très primitive et qui va rester très primitive.
Eh ben oui.
Des concepts aussi élevés.
Oui, absolument. D'abord, ils ont une morale, je vous disais, n'est-ce pas? Ils cherchent d'abord la tranquillité, on dirait aujourd'hui la solidarité. C'est le mot qui conviendrait, le mot qui est à la mode. Peut-être abusivement quelquefois.
Oui, souvent.
mais chez eux, ça n'est pas une légende. Véritablement, ils ne supportent pas les gens d'abord qui se mettent en colère. C'est arrivé quelquefois que quelqu'un se mette en colère. À ce moment-là, le fait de vivre en montrance et au besoin, s'il continue, à l'expulserait de la tribu.
Le simple fait de montrer sa colère.
Se mettre en colère. Ils ne supportent pas ça, pour eux, c'est vraiment le signe de quelqu'un qui est un mauvais individu, voire un sorcier. Car il y a des sorciers chez eux, mais on les craint, et dans la mesure du possible, on les expulse. Alors ces gens-là, donc, vivent pacifiquement, mais ils ont été obligés, à cause du fait que je racontais tout à l'heure, des incursions des Navajos et des Apaches, de se défendre, et ce sont quand même de valeureux soldats quand il le faut. Ils ont des dieux de la guerre, qui sont considérés comme des êtres laids, méchants, mais tout de même utiles.
Alors, utiles dans quel sens? Est-ce qu'ils ont un rituel d'adoration ou de célébration constant, ou est-ce qu'ils vont les chercher simplement quand ils en ont besoin?
Absolument, c'est ça. Il y a des idoles qu'ils ont reléguées sur une montagne, et c'est quand ils en ont besoin qu'on fait appel à eux, la plupart du temps. Donc, mais on a tout de même le courage de défendre la tribu, et d'ailleurs les Espagnols s'en sont aperçus à leurs dépens. Ils avaient des arcs et des flèches, et ils savaient s'en servir.
Alors, ils avaient des arcs et des flèches, ils avaient des animaux de trait, ou est-ce que...
Non, pas du tout. Ils avaient des
animaux. Pas d'animaux
ils avaient
domestiques.
Des moutons. Des,
ah, si, quand même, les moutons.
Des moutons. Des moutons, mais, vous savez, sur tout le continent américain, les chevaux ont été importés.
Par les Espagnols, bien sûr.
Et c'est curieux, parce qu'après, dans les films, on voit toujours les Indiens à cheval, et en effet, ils se servent beaucoup de chevaux. Mais c'est une nouveauté pour eux.
Ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que ces civilisations indiennes, pour la plupart, même les civilisations, non pas pastorales, mais les civilisations, les sédentaires,
oui.
Avaient très très peu d'animaux domestiques.
Très peu, absolument. Ah oui, c'était plutôt la culture que l'élevage. Mmh. Il y avait un peu d'élevage, mais très peu. Et c'était la chasse. Ils chassaient aussi. Les bisons, notamment.
Alors, Jean Cazeneuve, ce qui est intéressant, entre autres, dans votre démarche, il y a presque 40 ans, je le dis, 35 ans, c'est que, en fait, vous partez là-bas pour étudier une cérémonie religieuse.
Oui, exactement. Bon, écoutez, pour raconter en gros ce qui s'est passé, j'avais terminé mes études et je préparais une thèse sur les rituels primitifs. Une thèse qui a paru, c'est un gros bouquin. Et mon directeur de thèse, le doyen de la Sorbonne, m'avait dit « Ah, mais il faudrait que vous fassiez quelques études sur le terrain. C'est pas bien de faire un peu de parler des primitifs si on n'a pas été parmi eux. » Il m'a dit « Mais justement, j'ai attribué une bourse de la Fondation Rockefeller, et si vous voulez bien, je vous la fais attribuer avec l'idée qu'elle vous servira à aller dans une tribu d'Indiens. » C'est ce qui s'est passé. Donc, pendant toute une année scolaire, j'étais aux États-Unis. D'abord, j'ai fait un petit stage à Harvard. Et là, on m'a mis en contact avec un anthropologue, le professeur Vogt, dont la famille habitait dans un ranch juste à côté de la tribu indienne. Ça a été pour moi une grande chance, parce que le père de ce Vogt, qui était décédé d'ailleurs, était très bien vu des Indiens. Il avait fait beaucoup de bien, je sais pas s'il avait beaucoup de bien. Alors d'une part, ça m'a permis d'être bien reçu, contrairement à ce qui serait arrivé si je n'avais pas eu ces recommandations, et si j'avais été un Espagnol ou un Américain, car pour eux, un Français, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Bon, ça m'a permis là d'être en contact tout de suite avec les chefs religieux, avec le gouverneur de la tribu, et puis, surtout, et Madame Vogt, la mère donc de ce professeur, m'a gentiment donné des photographies qui avaient été prises par son mari. Car depuis très longtemps, les Indiens ne tolèrent pas qu'on introduise un appareil photographique chez eux. Il y a quelques anthropologues comme ça qui sont venus, en espoir d'enquêter sur leur cérémonie, qui se sont fait mettre à la porte, on a brûlé leurs notes et cassé leurs appareils. Alors, donc j'ai eu cette chance énorme. En outre, je finis de raconter pourquoi j'ai pu écrire ce livre que personne d'autre n'aurait pu écrire. Pour ces deux raisons, je suis blanc et je suis recommandé par le père, le bienfaiteur des Unis. Et troisièmement, surtout, j'ai donc pris pension, enfin j'ai loué une chambre dans une maison unie. Et je prenais mes repas dans la tribu, dans une espèce de cafétéria, restaurant, qui était tenu par un Hollandais, et ce Hollandais était le fils d'un homme qui s'était installé dans le village Zuni, et lui-même était devenu une sorte de Zuni. Il connaissait les rituels sur le bout du doigt, à tel point que quelquefois des prêtres qui avaient oublié un passage d'une prière venaient la lui demander.
Je me suis
lié d'amitié avec lui et il m'a donné évidemment tous les documents que je voulais.
C'est extraordinaire.
Donc j'ai pu parler de cette religion comme je crois personne n'aurait pu le faire s'il n'y avait pas eu ces trois avantages tout à fait fortuits qui m'ont permis d'écrire ce livre.
Alors quel est le trait le plus frappant chez vous? Nous avez déjà dit que c'était déjà une extrême courtoisie, très paisible.
La courtoisie, le calme, le recueillement. Alors, chose curieuse, quand on est reçu, comme ça a été mon cas, par les gens des Indiens unis, notamment par les prêtres, par le gouverneur et leur famille, on fait une visite, on s'assoit, ils s'assoient en face de vous, et puis on ne dit rien. C'est pas nécessaire de parler. Pour nous occidentaux, ça paraît fabuleux. Oui. On est déjà allé prendre le thé chez quelqu'un. On passe une heure comme ça, face à face. Mm. Simplement, on se pénètre de la personnalité de l'autre. On dit juste quelques mots. Voilà. Puis c'est tout.
Et pour un ethnologue, ça doit être très très compliqué à vivre.
Oui. Oui. Et vous savez, j'ai passé 8 mois là. Et je dois reconnaître que lorsque je suis parti, j'étais assez content, parce que c'est long tout de même. Oui. C'est long d'être seul blanc dans cette tribu, et inversement, ils étaient assez contents de me voir partir. Oui.
Est-ce que les petites indiennes sont aussi jolies que dans le cinéma américain?
Écoutez, dans la tribu Zuni, pas tellement.
Non, vous avez été tenu à l'abri de la tentation.
J'étais célibataire et j'avoue que ça n'a pas.
Alors, comment fonctionne cette société? C'est une société démocratique.
Ah ben alors, donc, actuellement, ils ont le statut de réserve. Alors, ne nous trompons pas, certaines personnes s'imaginent qu'une réserve, c'est une sorte de camp de concentration. Absolument pas. Il faut savoir qu'à la suite de tous les mauvais traitements que les Indiens ont subis de la part des Espagnols d'abord, et surtout, et ensuite même des Yankees, à la suite de cela, il y a eu une sorte de réaction de mauvaise conscience des Américains, qui est d'ailleurs très visible actuellement. Et ce sont d'ailleurs souvent des ethnologues ou des humanistes qui sont intervenus auprès du gouvernement américain. Ils ont dit qu'il faut absolument aider ces gens à vivre et à préserver leur civilisation. Pour ce faire, on a déclaré que c'était des réserves, c'est-à-dire qu'on a délimité leur territoire, et là, ils se gouvernent eux-mêmes. À tel point, comme je vous le disais, qu'ils ont le droit d'expulser des Blancs, qu'ils soient Américains, Espagnols ou Français, et qui leur déplaisent. Et puis, le gouverneur fait ce qu'il veut. Lorsque, pendant la guerre 39-45, on a mobilisé les Américains, on leur a demandé s'ils acceptaient, eux, d'être mobilisés. Et c'est parce qu'ils ont accepté qu'il y a eu des Unis qui sont allés combattre en Europe. Et d'ailleurs, le fait est que lorsqu'ils sont revenus, une certaine partie d'entre eux avait du mal à se réadapter à la vie primitive, en somme. Mais donc, personne ne les empêche de quitter la tribu quand ils veulent. S'ils veulent aller s'établir à n'importe où, enfin dans le Nouveau-Mexique ou ailleurs, eh bien ils sont absolument, il y en a quelques-uns qui le font. Donc c'est pas du tout un camp de concentration, c'est un système qui a été élaboré par des amis des Indiens pour leur permettre de s'administrer entre eux, de vivre comme ils voulaient, et le résultat c'est que ces Unis ont conservé leur façon de vivre à peu près intacte, bien qu'ils aient des automobiles, de la radio, de l'électricité, mais ça ne change rien à leur morale et à leur religion.
Est-ce qu'ils ont la télévision ?
Oui, ils commencent à la voir. Ils commençaient à la voir quand j'y étais. Je suppose que maintenant, ils doivent la voir. Ça ne change rien d'après. Donc, vous avez vu peut-être la préface de mon livre, où on fait le point.
Oui.
Et pratiquement, il n'y a rien de changé depuis l'époque où je m'y trouvais.
Ça, c'est extraordinaire, parce que ça montre quand même que ce sont des gens différents.
De même que les Espagnols les ont obligés souvent à se convertir, ou tout au moins à se faire baptiser, et continuent maintenant qu'ils ne sont plus obligés de le faire, une peu près la moitié des Unis, à peu près la moitié des Unis sont baptisés. Il y a une église protestante, une église catholique dans la réserve, ils vont à la messe le jour de Pâques et le jour de Noël, mais pour eux c'est une espèce de magie supplémentaire. Ça donne une garantie. On fait baptiser l'enfant parce qu'on pense que bon, ça sera commode pour lui. Mais ça ne change rien à leur croyance et à leur pratique.
Alors, de quoi vivent-ils?
Ils vivent d'abord de la culture du maïs. Et puis, il y a des artisans qui fabriquent des bijoux de turquoise. Regardez, on trouve des turquoises chez eux. De turquoise et d'argent. Ils vendent aussi des poteries, des vanneries, et puis il y a des touristes qui viennent.
Alors, c'est ce que j'attendais que vous nous disiez, en fait. Ce qui est très étrange, c'est que ces gens font penser un peu à des canards. C'est-à-dire que la civilisation, notre civilisation, glisse sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard.
Absolument. Absolument.
La télévision ne leur fait aucun mal.
Non, non, non.
Le tourisme ne change pas.
Non, non, on donne de l'argent, c'est tout.
Alors comment ça fonctionne?
Et d'ailleurs, en tourisme, ils sont des cérémonies comme les danses d'animaux qui n'ont pas un fondement vraiment religieux. Et ils font ça exprès pour les touristes. Pardon, il y a d'autres pueblos, les Hopis, qui sont beaucoup plus connus. On a davantage parlé des Hopis, ce sont d'autres pueblos. Eh bien, ces Hopis qui vivent, on les connaît parce qu'ils vivent au bord du Grand Canyon, qui est un des plus beaux paysages du monde, et qui attire les touristes.
Il y a un très beau livre sur les Hopis qui est paru dans la collection, je crois que c'est la collection
chez Gallimard, paru mon livre, c'est ça. Oui, et donc tous ces pueblos sont plus ou moins affrontés à la civilisation moderne, mais les unis sont ceux qui vivent le plus repliés sur eux-mêmes.
Et quelle langue parle-t-il ?
Ah, il parle une langue qui correspond, qui n'est même pas la même que d'autres tribus pueblos. Vous savez, presque chaque tribu a sa langue un peu différente. C'est le langage atapescan, mais en fait, ils parlent tous l'anglais.
Oui, bien sûr. Mais entre eux, j'imagine, vous continuez à parler
l'anglais. Entre eux, quoi, tu peux la parler.
Et vous avez appris cette langue?
Non, j'ai appris certains mots. Vous voyez, à la fin de mon livre, il y a une espèce de glossaire. De glossaire. Donc, j'arrivais à me débrouiller un petit peu, mais c'était même pas très utile, car ils parlent tous très bien l'anglais. Tous. Oui, il y a des écoles. Il y a des écoles, en général, des écoles de missionnaires qui ont fondé des écoles.
Alors, ça, bon, on a évoqué votre livre, Les Indiens Unis, les dieux dansent à Cibola. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est un livre qu'il faut lire, on va pas le raconter à ce micro, mais...
Oui, ce sont des cérémonies très compliquées et très belles, d'ailleurs. Mm-hmm. Très, très belles. Il y a des danses, des chants, des rituels, des masques, c'est cérémonies des dieux masqués, en général.
Alors, ce qui m'amuserait, c'est que... vous fassiez une espèce d'exercice de peut-être un petit peu compliqué, mais je ne crois pas que ce soit artificiel. C'est-à-dire que vous ne soyez plus l'ethnologue français qui va chez les Indiens unis, mais l'ethnologue uni qui revient en France et qui observe le fonctionnement de la société française à la lumière de l'expérience qu'il a de la société
d'ailleurs,
unie.
J'ai écrit un livre qui est une autobiographie qui s'appelle le sous-titre c'est des primitifs aux téléspectateurs. Mmh. Et c'est un peu l'itinéraire qui a été le mien. Donc je vous dis, je quittais les primitifs avec un certain soulagement parce que je vous disais huit mois tout seul dans une tribu comme ça, c'est long. Et je suis arrivé en France où c'était pas la première fois que je venais naturellement. J'ai retrouvé en effet notre civilisation véritablement avec joie. Il ne faut pas raconter d'histoire. Notre civilisation présente quand même des avantages sur celle des primitifs. Quand on raconte, comme on l'a fait souvent au moment où l'on célébrait le bicentenaire de la découverte par Christophe Colomb, oh comme c'est dommage qu'on soit que les Blancs soient venus.
Bien sûr.
On va raconter d'abord que ces Indiens ne faisaient que se battre entre eux, se piller, s'égorger, que la mortalité était très forte, la mortalité des Indiens, que l'espérance de vie était de 40 ans, alors que chez nous, vous le savez, les 70 et 80 ans, tout de même. Et finalement, alors maintenant, ils profitent quand même de tous ces avantages. Et peut-être que leur civilisation est meilleure dans ce sens qu'ils sont peut-être plus calmes, plus détendus. Mais tout de même, le progrès, c'est quelque chose. Donc, je n'ai pas éprouvé de regret en retrouvant la civilisation moderne.
Mais les défauts de la civilisation moderne ont quand même dû vous apparaître avec plus de clarté, non ?
Oui, c'est exact. Il y a des défauts de la situation moderne, mais également ses avantages.
Parce que vous êtes dans une situation curieuse. Vous avez été à la tête de l'instrument le plus redoutable
absolument
de la civilisation.
TF1 que j'ai fondé. J'étais le créateur de TF1.
Vous avez été le créateur de TF1. Et c'est une situation quand même assez paradoxale.
Oui.
De voir un homme de culture être à l'origine de ce qui est probablement à l'heure actuelle l'instrument de destruction culturelle le plus violent et le plus terrible.
Alors, je voudrais pas me vanter, mais réellement, lorsque je présidais TF1, c'est-à-dire entre 74 et 78, nous faisions quand même de grands efforts pour que la télévision ne soit ni vulgaire, ni dégradante, et pour qu'elle ait un aspect culturel. Même aux heures que l'on appelle le prime time, aux heures de grande écoute, puisque TF1 avait la plus grande écoute. TF1 avait à peu près 50% de plus que Antenne 2. Eh bien, aux heures de grande écoute, nous avions souvent des émissions culturelles. Notamment, la veille des congés scolaires, c'est-à-dire, le congé, c'était le jeudi, je crois, donc le mercredi soir, c'était ça. Et puis, nous avons créé aussi, nous avons fait beaucoup de créations, c'est-à-dire que nous avons porté à l'écran des chefs-d'œuvre de la littérature.
C'était la grande époque de la télévision de création.
Jean d'Ormesson, naturellement. On a diffusé en 4 ou 5 émissions tous les romans de Monterland, les Colette, etc., les Balzac. Oui. Donc c'était ça qui occupait l'écran le plus souvent. Il y avait évidemment, il y avait Colombo, etc., mais enfin, ça tenait pas la grande place.
Et pour les enfants, il y avait aussi des meilleures émissions.
Oui.
Alors l'ethnologue que vous êtes, quand il porte son regard sur la société française d'aujourd'hui, et non pas la société française contemporaine de la société unie que vous êtes allé étudier il y a 40 ans, quand il porte son regard sur cette société française, quel rôle attribue-t-il à la télévision dans l'état actuel de la société française ?
Écoutez, vous savez, je suis par nature optimiste. Je suis un impénitent optimiste. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle De l'optimisme, un autre sur le bonheur, etc.
Je sens d'ailleurs, quand on vous voit, que vous êtes un homme qui irradie la joie de vivre.
Oui, j'ai écrit aussi La joie de vivre, d'ailleurs. Bah. Alors, voyez, je pense donc que nous sommes en ce moment dans une situation transitoire. On a réformé la télévision, on a fait un tas de réformes, et finalement, le résultat n'est pas fameux. Il faut bien le reconnaître que
c'est un très bel euphémisme.
Il y a plus de vulgarité, souvent, que d'enrichissement pour l'esprit. Je pense que ça ne va pas durer, ça n'est pas possible. On va probablement réformer les choses, je l'espère. J'en suis pas sûr, mais pourquoi ne pas espérer que ce qu'on appelle le changement de majorité, l'alternance, va peut-être amener les nouveaux gouvernants à, je dirais, tirer les conclusions.
Ça, c'est même plus de l'optimisme, là, c'est...
c'est de l'aveuglement.
C'est de l'onirisme. C'est autre chose.
Oui. Mais là, je pense même que ça pourrait s'améliorer. Je suis de très près les sondages, car moi, je crois aux sondages. Hein. Je regardais toujours les sondages lorsque j'étais à la charge de TF1, et je constate d'abord qu'à cette époque-là, nous avions, je vous dis, pas que des émissions de haut niveau. On va pas raconter tout de même ce qui n'est pas vrai. Nous avions des émissions donc de variété, le défilé des chanteurs, etc., les jeux, Bon. Eh bien, c'est pas ça qui avait le plus grand écoute. Mon record d'écoute pendant les 3 années où j'ai exercé ce coupable métier, ça a été le roman de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu.
Au plaisir de Dieu, oui.
Ça a été tous les records.
Jean Cazeneuve,
comment... Et les Monterland ont fait aussi une très grande écoute, plus que les variétés.
Comment expliquez-vous, vous avez été pendant 3 ans, je rappelle, à la tête de TF1. Comment expliquez-vous que vos successeurs ne comprennent pas ce que vous avez compris, c'est-à-dire que c'est la qualité qui fait l'auditorat,
oui,
ou l'audimat, comme on dit, oui, maintenant,
et
persiste à faire le contraire de ce qu'il faut.
Il y a tout de même une raison vastement matérielle, c'est que ça coûte cher. Mettre un roman en film, pour l'atteindre en téléfilm, c'est assez cher. Mais enfin, c'est peut-être pas la seule raison. Mais je crois que c'est un peu la routine. Et c'est pourquoi je suis optimiste, parce qu'un jour ou l'autre, ils s'apercevront que c'est pas le meilleur moyen d'avoir de l'audimat. Il y aura bien une chaîne, parmi celles qui existent, qui se dira, mais au fond, si on essayait autre chose. Et il faut, naturellement, je ne dirais pas qu'il faut faire ce qu'on appelle une chaîne culturelle. Je ne parle pas de...
Arte,
qui à mon avis n'est pas une chaîne culturelle.
C'est une chaîne emmerdante, c'est autre chose. C'est une conception de la télévision.
Parce que on croit souvent que le culturel est emmerdant. Alors, cette chaîne qui s'intitule culturelle, pour éviter d'être emmerdante, c'est le mot qui convient, a cessé d'être culturel, oui. Finalement. Il y a un peu, il y a des choses, enfin, pas énormément. Pas énormément. Donc, elle n'est ni l'un ni l'autre, ni réjouissante, ni distrayante. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais je pense qu'on peut avoir une chaîne qui, je dirais, ça sera plutôt négatif, évitera tout ce qui est vulgaire, et tout en étant quand même distrayante. Il ne faut pas croire que la télévision n'a pas dans ses missions principalement celle de distraire. Moi, je crois que c'est bon de distraire les gens. Mais tout en les distrayant, on peut très bien élever leur goût au lieu de les rabaisser.
Oui, c'est ça, on peut distraire en élevant, on n'est pas obligé
absolument,
de distraire en
absolument.
Vous parliez du prix, ça c'est une chose curieuse. Pourquoi les émissions de qualité sont-elles plus chères que les émissions...
Je parlais des adaptations de... Non, si vous voulez faire une émission, comme vous voulez, de plateau, où l'on discutera de Nietzsche ou de Kant, ça coûte pas cher.
Oui, mais ça rapporte pas grand-chose non plus en général.
Écoutez, à TF1, j'avais une émission de philosophie.
Oui,
régulière,
qui était faite
par Denis Huysmans, et j'avais une bonne écoute, pas non. D'ailleurs, j'ai passé en seconde partie de soirée quand même, mais j'avais une écoute assez bonne. Et vraiment, c'était une émission de philo, ça intéressait beaucoup de monde.
Est-ce que vous avez le souvenir du prix? Vous parliez du plaisir de Dieu. Est-ce que vous avez le souvenir du prix que ça a coûté?
Non, franchement,
vous rappelez
pas. Non, je ne me rappelle pas.
Parce que ce serait intéressant de faire une comparaison.
D'abord, vous comprenez, pour tourner un téléfilm de ce genre, il faut d'abord se déplacer, il faut aussi des costumes, encore celui-là, c'est parce que c'est une époque relativement récente. Ça coûte très cher d'avoir des films qui se passent au 18e ou au 17e siècle, parce que il faut les costumes, tout ça. Enfin bref, de toute façon, c'est cher, il faut des acteurs que l'on paye bien. Il faut quelqu'un qui adapte le roman pour en faire un scénario. C'est cher. Tandis que, évidemment, une émission de variété, ça pourrait se faire d'ailleurs à très très bon marché, car les chanteurs, on les paye. Je vois pas pourquoi on les paye.
Oui, il y en a qui viennent vendre la camelote.
C'est leur publicité.
C'est un peu comme si je payais les invités de cette émission pour revenir. Ça serait.
Oui, c'est ça.
On demande avec quel argent je ferais.
Je vais être obligé de vous demander ça.
C'est gentil. C'est gentil.
Non, c'est évident, rien.
Oui.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Ah ben oui, effectivement.
Le journal de Serge de Beketch qui reçoit en ce moment Monsieur Jean Cazeneuve de l'Institut à propos de son livre Les Indiens Unis.
Oui, on a quitté les Indiens Unis. On est venu à parler de la télévision parce que.
Oui.
Je répète que ce qui m'intrigue, non pas qui m'intrigue, mais ce qui chatouille ma curiosité, c'est le fait que vous avez un regard d'ethnologue que vous avez affûté en étudiant des civilisations éloignées. Et ce qui est amusant, c'est de le faire porter sur notre civilisation à nous.
Je crois que, d'ailleurs Lévi-Strauss l'a dit lui-même, que pour comprendre même la situation moderne, il n'est pas mauvais d'avoir des éléments de comparaison avec ce qu'il le met plus différent. C'est tout de même une façon d'abord de se dépayser que d'aller vivre chez ces gens-là, car il faut pas y aller comme touriste. Il faut, comme j'ai fait, j'habitais pendant 8 mois avec les Indiens, et puis voilà. Eh bien, ça permet peut-être de mieux saisir les caractéristiques de telle ou telle civilisation, et notamment la nôtre.
En fait, vous avez connu 2 tribus profondément différentes, mais qui ont peut-être des points communs, ça serait intéressant de le savoir. Vous avez connu la tribu des Unis, puis vous avez connu la tribu des fabricants de télévision. Alors, est-ce qu'il y a des... Bon, on sait qu'il y a une différence.
Écoutez, oui, il y a tout de même peut-être des points communs, notamment une sorte de ritualisation. Et il y a un rituel souvent qui s'introduit dans la fabrication des programmes, rituel qui évidemment n'est pas religieux, mais c'est...
Quoique,
vous avez parfaitement raison. Vous savez, j'ai fait ma thèse sur les rites, et c'est pour ça que je vais chez les États-Unis, et on pourrait très bien traiter non pas seulement des rites de nos religions, car là, c'est là qu'on les trouve, les rites, mais également le besoin de rites qui existent dans toutes les sociétés.
Alors, quels sont les rites dont vous avez le souvenir et qui régissaient principalement la vie de la tribu télévision?
Ben, écoutez, il y a d'abord le découpage des programmes, des horaires. Il y a les informations à 20h, et puis à 20h... c'était autrefois 20h30, maintenant c'est plus 20h45, il y a le prime time, c'est-à-dire le plat de résistance. Eh bien, si on essaye de changer ça, c'est toute une histoire. Arthur Comte avait essayé de le faire, mais ça a été une révolution.
Ça a été plus difficile que de changer la Constitution.
Vraie, absolument, oui. Ouais. Oui, vous comprenez, c'est quand même...
Ah, ça vient de quoi ça, quel est le système qui engendre...
Parce que les gens organisent leur vie en raison des horaires, des
programmes. Les téléspectateurs. Mais en fait, alors on nous dit que c'est aux téléspectateurs qu'on organise la télévision comme ça, et vous nous dites que c'est les téléspectateurs qui organisent leur vie.
On pourrait peut-être essayer de changer, mais c'est difficile. Alors, on va à ce qui est le plus simple, on continue. Et c'est pourquoi je vous dis, au lieu d'essayer... de changer donc les choses et de faire qu'il y ait un peu moins de ces émissions que j'appelle vulgaires, c'est peut-être par abus, enfin. Eh bien, au lieu d'essayer d'en sortir, c'est tellement plus simple de continuer. Car si on fait des essais, on ne sait pas ce que ça donnera. Lorsque vous prenez une émission, faites une émission, une série d'émissions qui échappent à cette routine, vous risquez d'avoir de mauvais résultats, et alors ça c'est très grave. Vous savez, ce que j'ai éprouvé, par exemple, j'en ai fait l'expérience, c'est qu'à la télévision, il y a une espèce de persistance de l'écoute. Par exemple, je vous ai dit, TF1, alors quand j'ai été pris en main, j'ai eu très rapidement la plus grande écoute. Bon, alors la rivalité, c'est entre TF1 et entre Antenne 2. Antenne 2 qui faisait de bonnes émissions. Marcel Julien est un homme qui a fait de très bonnes émissions. Donc, il y avait cette rivalité. Et notre journal, car c'est important, le journal de 20h, c'est aussi quelque chose qui
un fait rituel,
la réputation, un rituel, et puis ce qui fait un peu la réputation d'une chaîne.
On le dit d'ailleurs, c'est la grand-messe de 20h.
Absolument, la grand-messe. Alors donc, nos journalistes étaient très heureux parce qu'ils avaient 50% d'audience de plus que le concurrent. Et puis un beau jour, Marcel Julien, qui est un homme très inventif, a eu l'idée de mettre, pendant le quart d'heure qui précède cette émission, de mettre une nouvelle chose, c'est-à-dire ce que ça s'appelait il y a un truc, c'était un certain Majax, un prestidigitateur qui faisait ça, donc il présentait un tour assez facile et puis le lendemain il donnait la solution et il en présentait un autre. En l'espace de 2 ou 3 semaines, mon journal est passé derrière celui d'Antenne 2. Ça a été alors je n'endormais pas la nuit, car ça c'est très grave.
Comment faire disparaître
les annonceurs m'ont dit, Monsieur le Président, il faudra baisser vos tarifs. Et, à ce moment-là, plus de grandes émissions n'a plus. Alors ce qui s'est passé, c'est que après la nuit d'insomnie, j'ai eu une idée et j'ai fait un essai. C'est-à-dire que je me suis rendu compte. De façon fortuite, d'ailleurs, qu'au fond, les gens aimaient ce qu'on appelle les histoires, les mots drôles, etc. Donc, j'ai créé à ce moment-là une émission qui s'appelait Eh bien, raconte. Voilà. Et, mais alors, je veillais à ce qu'elle ne soit pas vulgaire. D'abord, interdiction des histoires grivoises. Alors, vous savez qu'il avait demandé, Monsieur le Président, vous savez, les trois quarts des histoires, bah tant pis. Bon, c'est comme ça. Pas d'histoire belge, pas d'histoire corse, pas etc. Et puis, surtout pas d'attaque contre la religion non plus, etc. Bon. Eh bien, en 3 semaines, j'ai repris mes 50% d'avance sur l'autre chaîne. C'est-à-dire que les gens, donc, prenaient d'abord Majax, et ils continuaient sur le journal d'Antenne 2. Mmh. Ensuite, ils prenaient l'émission, eh bien, raconte, et ils continuaient sur mon journal à moi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine passivité. Peut-être que maintenant, ça s'est un peu émoussé avec la commande à distance. Les gens zappent un peu plus facilement. Mais tout de même, on constate dans les sondages qu'il y a encore cette continuité, que TF1 actuellement continue d'être la chaîne la plus regardée, et même quand ils font des choses pas formidables, eh bien, quand N2 fait mieux qu'eux, eh bien, Antenne 2, enfin, je veux dire France 2, puisque c'est France 2 maintenant, eh bien, les gens continuent à enchaîner sur le même journal, Voilà.
Grâce vous soit rendue en tout cas d'avoir confirmé avec toute l'autorité que vous confère votre passé de directeur, de PDG de TF1, 3 ans quand même, c'est pas rien, de confirmer le fait que c'est le nombre de téléspectateurs qui décide du sort d'une émission, et que si on cesse de regarder une émission, eh bien, et qu'on le fait savoir, cette émission perd le soutien des annonceurs publicitaires et par conséquent elle disparaît.
Oui, mais seulement on peut la remplacer par une autre qui sera peut-être. Seulement, il faut faire des essais. Il faut donc prendre des risques. Plusieurs fois, donc, que ce soit Julien ou moi, nous avons pris des risques. Bon, je me rappelle, par exemple, à certains moments, Jean-Pierre Hutin, que vous êtes peut-être...
Oui, bien sûr, le spécialiste des années.
Il vient me voir, il m'a dit, ben, j'aimerais bien faire une émission sur les animaux. Oh, mais dis ça, les gens qui ont des chiens ou des chats, ça leur, ils sont contents d'en avoir, ils vont peut-être pas être intéressés par une émission là-dessus. Bon, enfin, je me suis laissé fléchir, on a fait l'essai, et ça a été un succès. Ça aurait pu être un désastre, on ne savait rien. Donc, il faut prendre des risques. Voilà, je crois qu'actuellement, on n'ose pas encore prendre des risques, mais l'optimiste que je suis se dit, ça viendra.
Alors, vous nous avez dit qu'au bout de 8 mois de vie dans la société, dans les tribus des Unis, vous étiez content de revenir en France, mais est-ce que, après 3 ans dans la tribu des télévisuels, vous avez été content de retrouver la Sorbonne? Je ne vous poserai pas de questions sur la tribu de la Sorbonne, d'ailleurs, je ne voudrais pas vous mettre...
Vous savez, moi j'ai connu... J'avais connu en mai 68 avant.
C'était une époque où la tribu était agitée. Là.
Ah, agitée, oui, ça j'ai... Moi, j'en ai gardé un mauvais souvenir. Mais enfin,
les gens sérieux...
Très mauvais.
Les gens respectables ont gardé un mauvais souvenir.
J'en étais presque malade. Mais enfin, ça s'est bien passé après. Et puis, surtout, après même mes 3 années de TF1, j'ai été dans une autre tribu, celle des diplomates.
Oui. Alors, ça,
eh bien, écoutez, j'en ai un bon souvenir aussi.
Mais là, pour un spécialiste des rituels, vous baignez dans,
oui.
dans le bonheur. Là, c'était extraordinaire.
Oui. Alors, donc, j'étais dans un poste particulier, si je n'étais pas représentant de la France auprès d'un autre pays, mais c'est le Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe... qui n'est pas tellement connu, c'est dommage d'ailleurs, parce que il ne prend pas des décisions qui touchent au porte-monnaie des gens, étant donné qu'on ne s'occupe ni de finances, ni de défense, mais c'est plutôt des problèmes culturels et sociaux. Donc ça me convenait très bien. Quand on m'a proposé un poste à la fin de mes 3 années, eh bien, on m'a proposé plusieurs, et je dirais que j'ai accepté celui-là avec grand plaisir. Le plaisir a été décuplé d'abord parce que c'était à Strasbourg et que Strasbourg
est une belle ville.
Ah, c'est une très belle ville. Et finalement, le milieu des diplomates n'est pas ce qu'on croit. En tout cas, là, à Strasbourg, donc, où il y avait donc à la fois le Conseil de l'Europe et puis le Parlement européen, c'est-à-dire que on voyait défiler tous les hommes politiques de l'Europe et même les autres. Et puis, Les représentants des différents pays avaient été choisis justement pour leur culture. C'était déjà.
Alors c'était comme les Indiens unis. Voilà. C'était une société paisible et courtoise.
Absolument, tout à fait paisible. Mais enfin, ça n'était pas simplement la tasse de thé. Il faut croire que les diplomates sont restés ce qu'ils étaient dans la légende. Donc vraiment, c'est un milieu fort agréable.
Donc vous vous portez en faux contre Perfit et ses ambassades.
Ah, l'autre perfide.
Oui, l'autre.
absolument. Ça, vous savez, perfide, il aime bien, je dirais, j'allais dire que le vulgairement cracher dans la soupe.
Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça.
Il crache avec une certaine élégance en tenant la soupière avec le petit doigt en l'air.
Oui, c'est ça. Là, je déteste ça pour ma part.
Alors, au fond, Si vous jetez un regard en arrière et que vous revoyez toutes ces tribus auxquelles vous avez, enfin, dans lesquelles vous avez séjourné, la tribu de la télévision, la tribu de la Sorbonne, la tribu des ambassadeurs, la tribu des Unis.
Eh bien, j'ai pris des plaisirs différents. Très différents. Je vous dis, le plaisir d'être chez les Indiens était très grand au début, mais il s'est émoussé assez vite. À TF1, j'avais d'ailleurs demandé qu'on ne renouvelle pas mon mandat de 3 ans, parce que je sentais que ça devenait une routine aussi. Et je déteste la routine. Et après, donc, je pense que l'agrément était peut-être encore plus grand dans le milieu diplomatique. J'en ai de très bons souvenirs du milieu et de Strasbourg aussi.
Je voudrais vous poser une dernière question.
vous êtes un homme d'âge, on peut dire ça, sans...
Hélas.
Sans être désobligeant, d'âge et d'expérience. Et j'ai dit tout à l'heure que vous irradiez la joie de vivre, c'est tout à fait vrai. Vous avez le tour des yeux qui montre que vous souriez tout le temps, et un homme qui sourit, c'est un porteur de bonheur. Comment faites-vous ? Où puisez-vous cet optimisme, cette joie de vivre dans la société d'aujourd'hui ?
C'est une philosophie, je crois. J'en ai assez, d'abord, depuis longtemps, j'ai toujours eu assez, de ce courant philosophique de sinistrose. J'ai remarqué que maintenant, pour avoir du succès, quand on fait un livre de méditation ou de philosophie, il est très bon d'être très pessimiste. Eh bien, j'ai voulu réagir contre ça, mais peut-être était-ce ma nature, d'ailleurs, de réagir. Mais en tout cas, je me suis pris au jeu, probablement. Et c'est pourquoi j'ai donc étudié le bonheur, la joie, et puis, peut-être aussi, tout de même, je pense que la foi religieuse est aussi un soutien.
Écoutez, je ne pouvais rêver meilleure conclusion. Merci mille fois, Jean Cazeneuve, d'être venu passer ce moment avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le titre de votre très beau livre, « Les Indiens unis ». Ça s'écrit Z-U-N-I-S. « Les dieux dansent à Cibola », aux éditions du Rocher, dans la collection « Nuages rouges ». Et vraiment, je ne me lasse pas de dire ma joie de voir Jean Cazeneuve, membre de l'Institut, agrégé, docteur et professeur de sociologie à la Sorbonne, nous livrer ce reportage ethnologique sur une tribu d'Indiens. Je trouve que le contraste est vraiment magnifique. Merci encore.
Merci.
Alors, oui, ma chère Victoria, qui n'oublie jamais les détails importants, me demande de faire savoir que ce livre vaut 130 francs aux éditions du Rocher. Au revoir, monsieur Jean Cazeneuve.
Au revoir, merci beaucoup, j'ai un grand plaisir à ce dialogue.
Un auditeur nous fait remarquer que ce que monsieur Jean Cazeneuve évoquait au début de notre entretien, c'est-à-dire le différent entre les peuples nomades et les peuples sédentaire, ne se limite pas à l'Amérique, mais c'est un différent constant. Et cet auditeur nous dit, comment se dépêtrer de cet épouvantable cliché quand les ethnologues, même les plus insoupçonnables de mauvais esprit, viennent le confirmer. Voilà une réflexion qui incite à la méditation. Et je reçois maintenant quelques membres de l'équipe Jalon qui viennent de publier. Oui, vous
voulez
dire quelque
chose ?
On les
attend, donc on pourrait peut-être faire les annonces.
Bien sûr.
Après.
Bien sûr, bien sûr. On peut déjà faire une petite annonce ou deux.
Une petite annonce ou deux.
Mon cher président, je vous salue. C'est le président de Coq qui fait son entrée, suivi du vicomte depuis peu. Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur.
C'est bien normal.
Oui, je vous en prie, Victoria.
Alors, pour le 30e anniversaire de la mort du colonel Bastien Thiry, le 11 mars 1963, le jeudi 11 mars 1993, sur le bateau mouche Le Zouave au pont de l'Alma, à partir de 14h, exposition sur la vie et la mort de Jean-Bastien Thiry, vente de livres et dédicaces par les écrivains de l'Algérie française, le livre « Vérité » de Geneviève Bastien Thiry sera dédicacé par ses filles. 20h, veillée avec témoignages des acteurs et témoins du drame exposé de Bernard Moinet. Le vendredi 12 mars à 19h, messe en l'église Sainte-Odile, porte de Champéry à Paris. Samedi 13 mars à 15h, au cimetière de Bourg-la-Reine, sur la tombe de Jean et Geneviève Bastien Thiry, prière pour toutes les victimes de la guerre de l'Algérie française. Dans le cadre des conférences La Croix...
Ah, ça c'est très important, je voudrais dire un petit mot.
Oui. Dans l'avenir du monde. Alors, conférence du docteur Pellebois, avec projection d'un film vidéo sur Dozulé, puis réponse aux questions. À 14h, très précise, musée social, 5 rue Lascas, dans le 7e, métro Solferino. Le samedi 13 mars, entrée gratuite, et on peut se renseigner au 47 53 06 23.
Oui, je voulais dire un mot, c'est que j'ai l'intention de faire un jour une émission sur Dozulé. C'est un sujet... qui me paraît très intéressant. Je ne suis pas encore bien arrivé
à démêler cette affaire. Je ne sais pas, président Lecoq, vous avez une opinion ?
Monsieur, je suis venu pour parler d'un journal, je ne suis pas venu pour parler d'autre chose.
Voilà, monsieur, il veut plus faire de la promotion de son journal et absolument pas parler d'autre chose. Ben alors, je ne vous inviterai pas le jour où je ferai l'émission sur Deux Huilés, ça sera pour... tant pis pour vous. En tout cas, on fera cette émission, donc si vous connaissez des gens qui possèdent le sujet, j'en connais déjà, mais je connais déjà des gens qui sont favorables à Deux Huilés. Ce que j'aimerais bien, c'est rencontrer des gens qui ont étudié la question et qui ont pris une position contraire, de façon à pouvoir susciter un débat d'où jaillira la lumière.
Bon, session de Renaissance catholique, les catholiques et la politique, animée par Jacques Oswald, le dimanche 14 mars 1993, de 14h à 19h. Le lieu, c'est la salle des conférences 25 rue Pajol dans le 18e, métro Max Dormois. Inscription, 50 francs par personne pour les adhérents de Renaissance catholique, les autres 80 francs. Vous vous inscrivez 89 rue Pierre Brossolette, à Issy-les-Moulineaux. Et vous pouvez téléphoner au 46 62 97 04.
Bien, ben, on fera les autres annonces à la fin de l'émission. Je voudrais maintenant donner la parole au président Basile Decoq, qui me paraît impatient d'exprimer sa joie de publier un nouveau pastiche.
Oui, je voudrais tout de suite que vous précisiez un point. Est-ce que, comme la dernière fois, on aura 3 minutes 30 ou est-ce qu'on aura un petit peu plus de temps ?
Non, je pense vous laisser 3 minutes 45, 3 minutes 47, mais on pourra aller jusqu'à un quart d'heure cette fois-ci. J'ai le plaisir de vous l'annoncer. Simplement, je vous signale que moi-même, je vais publier prochainement un magazine et que je suis naturellement beaucoup plus généreux. Mais pourquoi il rit ? Enfin, bon, on en parlera hors antenne, si vous voulez. Le montant de l'abonnement est de 490 francs et l'adresse 68 rue David d'Angers.
La seule différence, c'est que le journal n'existe pas encore.
Bah, parce que vous pensez que le vôtre existe réellement ? Bah, sous prétexte que c'est du papier imprimé. Enfin, je veux pas être désagréable au début de l'entretien, mais oui. Ça finira mal, parce que je vous signale que vraiment, c'est cette façon que vous avez de tourner en ridicule, il faut dire, un des titres les plus respectables de la presse française.
C'est le contraire. Je rends respectable un des titres les plus ridicules de la presse française.
Alors donc, jalon numéro spécial, c'est numéro 8 du 20 mars 1993, qui montre l'ampleur du mensonge, puisqu'on est, on n'est même pas le 11.
Jalon a toujours été en avance sur son époque.
Alors vous publiez le numéro du 20 mars le 11, bravo. C'est ça, c'est de la presse d'information. Je souligne une fois de plus une action de désinformation qu'il faut dénoncer. Donc, le titre, le Figaro...
C'est le Figaro, oui.
Oui, pourquoi j'ai pas articulé ?
Vous l'aviez avalé.
Il a avalé le Figaro ?
Il a dit le Figaro.
Le malheureux.
Alors, bon.
Alors, quelle est votre motivation profonde, en dehors du fait de gagner de l'argent, puisque je signale que cet exemplaire du Figaro est vendu 20 francs, alors que le simple Figaro, qui ne, au fond n'a qu'une syllabe de moins, est vendu, lui, 6 francs.
Donc, je vous fais remarquer
ce gars supplémentaire, vous le payez 14 francs quand même.
Une fois qu'on a lu le Figaro, on n'a plus besoin de lire tous les Figaro. Vous comprenez, c'est terminé.
Ah, c'est la substantifique moelle du Figaro.
Oui, c'est comme quand nous avons fait le Monstre. Les gens qui ont lu le Monstre une fois pour
les trois lecteurs du Monstre ont cessé immédiatement d'acheter le Monde.
Permettez-moi de vous dire qu'on en a vendu 80 000 exemplaires.
Ah, pardon. C'est-à-dire les trois l'ont acheté comme pour, chacun 25 000 fois.
C'est comme pour l'Aberration dont on a vendu 100 000 exemplaires. Je crois que les gens qui auront mis 20 francs pour acheter le Figaro seront dégoûtés à tout jamais du vrai Figaro. Parce que nous avons fait tellement mieux. Et nous avons notamment fait réaliser par un institut de sondage Hypnos un sondage qui est porteur d'espoir pour la droite républicaine. Puisqu'il annonce... que les Français vont voter à 59% pour la coalition UPF, ce qui donnera à l'UPF 550 sièges sur 600, tandis que l'Alliance des Français pour le Progrès, c'est-à-dire le PS clandestin, recueillera 14% et 30 sièges. Les écologistes et naturistes et assimilés auront 13% et donc 3 sièges. Le Parti communiste, c'est-à-dire la scission du Congrès de Tours, 5% et donc 16 sièges en Seine-Saint-Denis. Et enfin, le Front National, 10% et 1 siège.
Oui.
Voilà, donc c'est l'information essentielle. Mais en dehors de cela, vous retrouvez évidemment toutes les rubriques habituelles du Figaro.
Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cet article de Charles Rebut et sur ce commentaire de Jérôme Baffet, parce que vous apportez quand même des informations qui sont... capitale, il faut bien le dire. Par exemple, vous nous dites que 12% des électeurs inscrits souhaitent la victoire de la droite, mais sont trop vieux ou trop malades pour aller voter.
Oui, ce qui veut dire que l'ampleur de la victoire de la droite républicaine aurait pu être encore plus grande s'il n'y avait pas eu ces malheureux incidents, car un certain nombre d'électeurs de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing seront malheureusement pas en état de se déplacer, soit qu'ils soient trop malades, soit qu'ils soient décédés d'ici là.
C'est ça. En fait, on constate à la lecture de ce sondage que si ces élections avaient eu lieu non pas en 93 mais en 81, elles auraient donné beaucoup plus de voix, puisque les gens auraient eu 12 ans de moins, donc ils auraient été moins âgés.
Oui, sauf que peut-être avec 12 ans de moins, ils n'auraient pas voté pour la coalition UPF.
Ah, c'est ça. D'où le titre du journal.
Oui, peut-être, oui, je ne sais pas. Vous savez, c'est un titre traditionnel. Avant, ça s'appelait le Gogolois.
Ah, ben voilà.
Ce que je voudrais dire, c'est que ces résultats qu'exprime notre sondage Hypnos sont la conséquence de l'heureux effet amplificateur du scrutin majoritaire qui, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, donne une prime en siège aux partis ayant le plus grand nombre d'élus. C'est-à-dire, en l'occurrence, à l'UPF, la coalition du RPR et de l'UDF. Et dans ce système, le Front National, j'en parle, puisque il semble que Monsieur Le Pen, le président, je crois, du Front National, écoute votre radio. Eh bien, je voudrais en profiter pour lui lancer un appel solennel en lui disant, Monsieur Le Pen... compte tenu du fait que les sondages vous accordent un siège, à quoi bon continuer ce combat ? C'est dangereux. Et je dis, Monsieur le Président du Front National, pour la France et pour la droite, retirez vos candidats dès le premier tour, dès avant le premier tour. C'est vrai que le président Le Pen a su s'attacher environ 10% du corps électoral. Et ces braves gens, après tout, sont des Français comme les autres, peut-être un peu plus frustes, un peu plus fragiles psychologiquement. Il n'en reste pas moins des citoyens, c'est incontestable.
Ah, je vous remercie quand même de leur accorder.
Le problème, c'est que cet électorat, Monsieur Le Pen l'a gelé par ses excès de toute nature, qui ont rendu impossible toute alliance entre notre droite républicaine et civilisé, et le Front National.
Il m'aura tout fait, celui-là.
Dès lors, les millions de malheureux qui s'obstinent à suivre M. Le Pen dans son action s'enferment dans une impasse politique. Et leurs voix ne seront d'aucun secours à la droite, c'est-à-dire à la France. C'est pourquoi je lance cet appel à M. Le Pen. Je lui dis, vous qui revendiquez le beau titre de patriote français, eh bien, à l'heure où la France tient une dernière chance de salut avec l'UPF, ferez-vous moins pour la France que Jeanne d'Arc, qui sacrifia sa vie à sa mission? Alors, que faire? Eh bien, c'est très simple, Monsieur Le Pen. Il faut retirer vos candidats, tous vos candidats, avant le premier tour, afin d'éviter les déchirements qu'entraînerait une campagne fratricide. C'est là un geste patriotique magnifique et sans précédent dans votre longue carrière. Et je vous rassure, Monsieur Le Pen, la nouvelle majorité saura vous renvoyer l'ascenseur comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elle s'inspirera très largement de certaines de vos thèses, nous en prenons l'engagement. Enfin, j'en prends l'engagement personnel. Par exemple, je peux vous dire que la plupart des dirigeants du RPR et de l'UDF sont déjà acquis au principe du non-remboursement de la carte orange pour tout délinquant immigré clandestin surpris en flagrant délit. Et j'ajouterai que bien d'autres mesures encore plus fermes sont actuellement discutées.
Ça, c'est une nouvelle. Mais vous avez des informations précises qui vous permettent d'avancer cette...
Je viens de vous le dire. J'ai discuté dans les couloirs avec mon ami Nicolas et mon ami Alain. Et...
Oui, Michel aussi, peut-être.
Oui, bien sûr, et les autres.
Et les autres.
Et donc, il ne s'agira pas... Ce retrait qui est demandé à Monsieur Le Pen est tout simplement le seul vote utile, car il est évident que voter pour lui est non seulement inutile, mais absurde, et fait le jeu de la gauche. Donc le seul vote national possible, c'est de voter pour la droite républicaine dès le premier tour.
Mais je vous remercie d'avoir mis à profit cette émission pour exposer ce programme. Ça arrange bien mes bidons, comme on dit donc en ce moment, et c'est parfait. Alors, je rappelle que c'est la position du président Basile de Kock. Ou est-ce que c'est la position du directeur de la publication du Figaro?
C'est la position du Figaro, du comité éditorial du Figaro, et notamment de Monsieur Alain Perfouette de l'Académie française, Monsieur Georges Surfait, Monsieur Franz Observateur Gisbert, et l'ensemble de nos collaborateurs. Vous voulez que je cite toute la liste?
Oh bah pourquoi pas, oui, on peut. Vous avez d'autres noms peut-être?
Oui, nous avons Alain Gérard Fmala, Patrice Desobligeant, Nicole Carn, bien sûr Jérôme Baffé de l'Institut Hypnose,
déjà cité, oui.
Charles Rebut, le commentateur électoral,
et puis André Fosser.
André Fosser, qui signe un excellent cheval seul, à la fois très drôle et très catholique, comme il sait l'être, puisque vous savez qu'il est l'incarnation de Dieu et son porte-parole sur Terre.
Oui, puisqu'il l'a rencontré.
Mais je crois que c'est plutôt le contraire, en fait. On s'aperçoit peu à peu que c'est Dieu qui a rencontré Frossard.
Parce qu'il n'y croyait pas.
Oui, c'est ça.
Je voudrais donner la parole maintenant au vicomte depuis peu. Je me demande s'il va nous parler du carnet du jour, parce que c'est quand même, ça me semble revenir de par la naissance, en quelque sorte. Si quelqu'un au monde a le droit de parler du carnet du jour
non,
du Figaro.
Pas au monde, au Figaro.
Au Figaro a le droit de parler du carnet du jour du Figaro. C'est bien le vicomte depuis peu.
Voilà, c'est exactement mon propos. Si je me suis associé à l'entreprise du président de Kock, c'est d'abord parce que, comme pour tous ceux qui se souviennent du Gaulois, le Figaro, c'est son carnet mondain. Le Gaulois, oui. Pas tellement pour ce qu'il est, mais bien plutôt pour ce qu'il représente. C'est-à-dire qu'on y trouve toutes nos familles, en tout cas toutes les familles alliées au Pipeu, et à travers elles, les valeurs qu'elles défendent. C'est-à-dire la vie religieuse, la vie sociale, la vie associative, la reproduction endogène et le patriotisme. Et tous ceux qui lisent le carnet mondain ne nourrissent pas heureusement, devrais-je dire, l'espoir d'y figurer un jour, à quelque titre que ce soit. Mais tous sont réconfortés de voir que ces vieilles familles, comme celles des Pipeux, prospèrent, croissent et se multiplient, et qu'elles continuent d'illustrer ces valeurs auxquelles je faisais allusion. Même les petites gens que les socialistes ont méprisés, et même surtout les petites gens, sont heureux d'assister par procuration, comme d'habitude, à la vie de ces familles illustres, dont ils ne peuvent plus être les domestiques, à la vie de cette frange ignorée et méprisée par les socialistes de la population. Et je suis certain qu'à la lecture du Figaro, ils sentiront renaître en eux l'espoir d'une France repeuplée de vrais Français et prête à offrir à chacun la position qui est due à son rang.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce carnet mondain, ce carnet du jour, n'est pas seulement l'énumération des événements qui frappent les familles de notre famille, si j'ose dire. C'est aussi une façon différente de regarder l'actualité, de percer certains méandres, ou plutôt de percer certains secrets de cette actualité.
Notamment grâce à certaines nouvelles rubriques qui ont été créées.
Voilà, je vois par exemple, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle « Meurtre ». Qui est tout à fait intéressant, parce que jusqu'à présent on avait anniversaire, deuil, décès, commémoration, etc. Mais là il y a meurtre, alors on voit.
Oui, mais vous comprenez, la véritable tradition est critique, et nos familles ont toujours su incarner le pays réel. Alors, aujourd'hui c'est une dimension qui existe dans la vie sociale et sur laquelle il ne faut pas jeter un voile pudibond. Et donc je crois au contraire qu'il est bon que Jacques Chirac puisse s'exprimer sur la mort de Monsieur Le Canuet et dire qu'il n'en est pas responsable, le FLNC puisse essayer de reconquérir les grandes familles corses en expliquant leur position par l'organe qui est le plus susceptible de les toucher.
Voilà, c'est intéressant. On peut d'autre part procéder à certains recoupements. On apprend par exemple que la direction des charbonnières de Mazingarbe, l'encadrement supérieur et subalterne des charbonnières de Mazingarbe, les ouvriers mineurs, personnel administratif des charbonnières de Mazingarbe, personnel de surveillance, etc., etc., annoncent, ont la douleur de faire part du décès brutal de Monsieur Charles Le Grand Richard, commandeur de la Légion d'honneur et commandeur d'autres choses, membre permanent fondateur du club des 200 familles, chevalier de l'ordre international du mur d'argent, délégué permanent du patronat chrétien non pratiquant du Nord pour les questions sociales, président directeur général des charbonnières de Mazingarbe, député sans étiquette de Mazingarbe, leur patron père et bienfaiteur, décédé prématurément dans sa 92e année. Et juste dessous, on a une autre information. Pardon, qui nous apprend que le personnel collègues cadres et prolos des charbonnières de Mazingarbe, leur famille et l'ensemble des citoyens de Mazingarbe ont le regret de vous faire part du dépôt de bilan des charbonnières de Mazingarbe. Donc là, on a une espèce de raccourci
voilà,
très rapide de la vie.
C'est là où on voit qui sont ceux sociale. Qui ont fait la France et qui sont ceux qui la défont. J'ai très bien connu le président Le Grand Richard, c'était un grand homme, et les 200 familles auxquelles il est fait allusion et auxquelles les pupeux n'ont cessé de vouloir s'allier sont véritablement celles qui ont construit cette France qui aujourd'hui renaît à la vie grâce à l'UPF.
Alors il y a une autre dimension encore révélatrice, c'est on voit à travers ce carnet mondain du Figagaro naître une nouvelle France, une France affranchie de ses tabous et de ses comment dirais-je, de ses mauvaises traditions. Par exemple, on apprend le mariage de Jeannot et Anne-Claire Tristan, respectivement fils et fille de Monsieur Roger Proldu et Madame Née Simone Vassingue, et fille du baron Charles Edgar de la Haute de la Grande et de la baronne Née Edmond de la Saillie. Donc on est un peu...
Et vous avez cette même évolution positive du creuset français dans la première des naissances.
Oui, alors je ne la vois pas, je ne l'ai
mais
pas.
Mais si, il y a d'Albert de Saint-Français, voyons.
Eh bien, écoutez, j'ai manqué ça, mais ah ben oui, bien sûr, le vicomte, bien sûr, le comte Victor, pardon, Adalbert de Saint-Français, la comtesse Née Louise de Saint-Louis. On la jouait d'annoncer la naissance de leur fils Mouloud. C'est tout à fait sympathique. On voit naître une nouvelle civilisation, une nouvelle tradition française.
Et le Figagaro, contrairement à ce que vous aviez l'air d'insinuer tout à l'heure, est directement en prise sur cette évolution. Ce n'est pas un journal démodé, ce n'est pas un journal d'une je ne sais quelle ancienne France. Comme le dit le vicomte, la véritable tradition est critique, elle est évolutive, et nous évoluons en même temps que la France et en même temps que le monde. Et nous sommes très contents de voir, donc, à travers le sondage dont je parlais, que l'immense majorité des Français nous suit, puisque je rappelle que nous avons posé la question dans notre sondage Figagaro Hypnos, et il apparaît que, à la question « Préférez-vous une droite honnête ou une gauche pourrie ?», 85% des Français répondent qu'ils préfèrent une droite honnête et ils ne sont que 15% à préférer une gauche pourrie.
D'accord.
D'autre part, quand on analyse plus finement les résultats, on s'aperçoit que parmi les principaux reproches qui sont faits aux socialistes, 75% des Français reprochent aux socialistes de n'avoir pas tenu leurs promesses, tandis qu'ils sont 80% à leur reprocher d'avoir tenu leurs promesses. Ce sont des enseignements très importants pour l'avenir.
C'est une raison, c'est une bonne raison de lire ce numéro du Figagaro, qui est en vente dans tous les kiosques, qui est une autre très bonne raison, qui est une raison traditionnelle, c'est la fameuse rubrique « La recette des grands chefs », qui est présente dans tous les numéros du Figagaro, et spécialement dans celui-là, et je voudrais quand même donner le contenu de cette recette. Je ne vais pas la lire, parce que je vous en réserve la surprise, quand vous ouvrirez le journal.
Elle est très détaillée, oui.
Mais le titre, mais c'est un plat simple et économique, qui fera plaisir à tous vos amis. Il s'agit du bison de mer farci au blanc de baleine dans son coulis de girolle fourré à la truffe. C'est une recette facile pour 6 personnes. Préparation l'avant-veille 4h30. Cuisson 3h17. Thermostat 5-6. Donc si vous avez un four, eh bien n'hésitez pas à essayer le bison de mer, pardon, farci au blanc de baleine. Merci président de Coq. Merci monsieur le vicomte depuis peu de nous avoir associé en quelque sorte à la naissance de ce Figagaro, qui est fort complet et qui compte un nombre de pages
qu'on peut évaluer à plus de 16.
Ce qui est finalement sa grande supériorité par rapport au Figaro.
Ben, c'est le maximum qu'on puisse lire de ce genre de conneries, et donc ce qui explique que le Figagaro se vende mieux que sa parodie quotidienne qui s'appelle le Figaro.
Merci président de Coq. Je voudrais indiquer
oui,
le quart d'heure qui vient de s'écouler était consacré à l'humour, que donc les propos qui étaient tenus étaient des propos du deuxième degré, et que si on veut en savoir plus sur le groupe Jalon, on peut faire 36-15 Jalon, Pardon, décidément.
Oui, c'est une sorte de Minitel qui s'appelle 36-15.
C'est ça, sur son Minitel, on fait 36-15 jalons. Et on fait comme ce fidèle auditeur qui Minitel, nous dit-il, qui téléphone, pardon. Alors, il pourrait Minitelé chaque mois pour féliciter l'équipe de Jalon tant il s'amuse avec eux. Alors, vous avez reçu un message de monsieur votre frère, je pense, le président de Coq.
Non, c'est un chômeur que j'avais engagé pour un petit boulot intermittent.
Je voudrais vous poser une ultime question. Les mots croisés de Lagorner, il faut les faire ou on perd son temps?
Ah non, vous pouvez les faire, seulement vous êtes aidé parce que vous avez les réponses deux pages plus loin.
Oui.
Mais effectivement, vous pouvez les faire, c'est assez facile, parce qu'en réalité, les réponses portent pratiquement toutes sur un même homme.
Oui, est-ce qu'on donne son nom? Ou est-ce qu'on laisse la surprise au lecteur?
Il s'agit d'un certain Robert H.
Ah, nous n'en dirons pas plus. Merci, président de Coq. Merci,
Vicente. C'est ma tournée, je vous en prie.
Vous passez voir monsieur Varlet qui reçoit les chèques.
D'accord.
Au revoir, messieurs. Merci de votre sympathique visite. On a oublié de demander un chèque à Jean Cazeneuve, tiens.
Oui.
Oh, on perd la main. nous avons des annonces maintenant.
Nos auditeurs qui souffrent beaucoup de vous entendre tousser.
Ben, et moi donc.
Ne saurais trop vous conseiller le sirop pulmocérum et les pastilles pectosan. Je vous donne.
Merci à tous les auditeurs qui prennent un tel souci de ma santé.
C'est comme ça que Cyril Collard a commencé.
Oui, mais j'ai pas attrapé ça dans les mêmes conditions que lui.
C'est ton. Alors.
Oh, c'est incroyable celle-là.
Il y a de la révolte.
Soyons dans le ton. Bon. La réunion du président Le Pen à Paris n'aura pas lieu le 17,
oh,
le 18,
je suis très content qu'il l'ait annulé, répondant ainsi à mon appel.
Non, il a eu peur et il a avancé au contraire, au mercredi, mettez bien ça dans vos têtes, le mercredi 17 mars, ça aura lieu comme prévu au gymnastère de Coubertin à 20h30.
Sans filet.
Et sans filet, oui, avec les 99 candidats de l'Île-de-France. Et puis, les autres annonces, je les ferai la semaine prochaine parce que c'est pour les semaines d'après.
Bon, ben c'est bien.
Vous pouvez acheter le programme, donc Jean-Marie Le Pen. Les 300 propositions sont résumées dans une lettre qui vaut 5 francs que vous pouvez vous procurer, 11 rue de Bernoulli.
Dites-moi, vous me dites que la semaine prochaine, mais il y a bien une signature du merveilleux livre d'Anne Brassier consacré à la Varande qui doit se dérouler chez l'ami Malirakis, non?
Eh ben alors,
vous n'avez pas ça?
Sait, oui.
Il me semble que c'est le mardi 11. Il me semble bien que c'est le 11. Pour en savoir plus, alors je vous donne un nouveau numéro de téléphone que vous pouvez noter pour avoir des informations sur tout ce qu'on a dit ce soir. Vous pouvez joindre le numéro de téléphone suivant 42 46 77 33, et là, Françoise Varlet vous répondra, soyez gentil de n'appeler que le matin, à partir de 10h à peu près. C'est-à-dire appeler entre 10 et 13h, mais pas à d'autres moments, parce que c'est une ligne unique et nous en avons besoin pour travailler.
Et merci de... Oui. Encore le... Valérie Delahaye au Père Tranquille,
vous
attend.
Bah écoutez, donnez donc l'adresse.
Au 30 avenue du Maine. Avec un accueil très agréable.
Il faut soutenir Valérie parce qu'elle est gentille et c'est bien ce qu'elle fait. Voilà.
C'est Mathilde Creuse qui la soutient.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, écoutez, merci d'être... Qu'est-ce qu'il y a encore, Philippe? Pardon? Je n'entends pas ce qu'il me dit.
Radio.
Non, attendez, j'ai encore un mot à dire. Je voudrais remercier les auditeurs d'être restés aussi patiemment à notre écoute alors que j'ai massacré cette émission avec mes... tout sautement et autres éructations. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Bonne semaine et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Émission du 10 mars 1993, rediffusée dimanche 12 juillet 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Immortel, volontaire et officier blanc, libre au temps.